Je vais dire quelques mots pour introduire cette séance et commencer par remercier Luc Boltanski de s'être libéré pour venir nous aider à réfléchir un petit peu à ce projet avec Pierre-Damien Huyghe sur cette question de la modernité, ce qui était au départ la question de la modernité et qui devient de plus en plus, suite aux débats qui ont eu lieu dans ce séminaire, de plus en plus la question de la modernisation. Alors avant de dire ces mots de recontextualisation de là où nous en sommes un petit peu dans nos débats, parce que nous sommes en débat actuellement, je voudrais juste préciser qu'il était prévu initialement une séance double avec Luc Boltanski d'une part et Marcel Gauchet d'autre part, mais Marcel Gauchet, comme beaucoup de gens en ce moment, est malheureusement malade et grippé et a dû reporter son intervention. Et donc, Luc Boltanski a accepté d'intervenir seul. Je l'en remercie beaucoup, dans ce style qui est un style de, qui n'est pas un style du tout de conférence ou de séminaire où on présenterait des résultats achevés, mais bien plutôt une manière de réfléchir à plusieurs sur un sujet en gestation. Alors, ce séminaire, pour resituer pour vous, Luc Boltanski, et son histoire rapidement, il est animé par Pierre-Damien Huyghe, ici présent depuis le mois d'octobre, à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou maintenant, qui est une nouvelle structure, qui a pour but d'essayer de lancer des travaux modestement de recherche en collaboration avec des gens qui viennent en résidence. Pierre-Damien Huyghe, hein, qui est professeur à la Sorbonne, est ici aussi en résidence dans ce contexte-là, comme une trentaine d'autres personnes. Et sur certains thèmes, certains travaux, nous essayons de faire un travail de préparation approfondie, de réflexion collective, pour déclencher ensuite des débats publics. Une des thématiques que nous avons retenues pour cette année 2007, qui nous paraissait importante de réactiver, c'était la question de la modernité, dans la mesure où le Centre Pompidou a 30 ans et que le Centre Pompidou a été voulu par le président de la République française de l'époque, Georges Pompidou, comme un signe de la modernité de la France. Il nous semblait important de réinterroger aujourd'hui le sens de ce qu'on peut appeler la modernité. C'est un sujet évidemment extraordinairement, terriblement même polymorphe, si je puis dire. Mais ce que je voudrais dire, et je parle sous le contrôle et éventuellement des nuances que pourrait apporter Pierre-Damien Huyghe ici, c'est que ce que Pierre-Damien Huyghe a mis en œuvre dans ce séminaire, a fait apparaître d'abord que la question de la modernité était une chose, celle de la modernisation en était une autre, celle du modernisme en est encore une autre, etc. Et d'autre part que finalement, en tout cas c'est moi les conclusions que j'ai tirées de nos débats ici, que peut-être poser le problème de la modernité aujourd'hui n'était pas une question très efficace. En tout cas pas posée sous cette forme-là. Mais que peut-être ce qui se posait à nous aujourd'hui, quand je dis nous, alors qui est ce nous? C'est évidemment pas simplement le centre Georges Pompidou, c'est même pas simplement les Français. Je dirais, ce sont ceux, appelons-les les Occidentaux, et principalement les Occidentaux européens, qui ont déclenché le processus de modernisation, il y a maintenant peut-être 7 ou 8 siècles, qui ont, dans le déclenchement de ce processus, produit un discours qu'on pourrait appeler le discours de la modernité. Et un discours qui n'est pas seulement un discours, mais une organisation, un projet politique, un État moderne, etc., etc. Et le centre Georges Pompidou serait un des résultats, un des derniers, peut-être même le dernier résultat d'une telle politique moderne, porté par un État, comme en tout cas en France, peut-être le dernier résultat d'une politique de ce type-là. Je dis ça, je viens d'écrire un petit texte là-dessus, qui s'appelle, où je parle du Centre Pompidou comme le dernier grand geste moderne. Et ces questions se posent en fait pour nous aujourd'hui, dans un contexte nouveau, où, alors que nous serions les Européens, le continent d'origine de la modernité, outre que de la modernisation, puis avec l'Amérique qui est devenue un continent, une espèce d'extension de l'Europe qui finalement a pris leadership dans cette affaire de la modernisation et ou de la modernité, ça c'est une vraie question, modernité, et Amérique du Nord, vraiment une question. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous en serions au stade où nous découvrons qu'une modernisation se produit et qui n'est plus une modernisation désirée, mais une modernisation obligée. À ce stade-là, je dirais, et je crois que je suis fidèle à ce que disait Pierre-Damien Wig par ailleurs, que la modernité serait été ce qui accompagnait la modernisation comme le désir de la modernisation, et dans un langage un peu de psychanalyste, on aurait dit la rationalisation de la modernisation, mais pas la rationalisation au sens de Max Weber, mais bien la rationalisation au sens, au contraire, d'un discours de rationalisation, mais aussi l'expression d'un désir de construction, d'anticipation, de volonté. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, dans un contexte où d'autres pays, et non seulement d'autres pays, mais d'autres continents, en particulier l'Asie, bien entendu, nous forcent à adopter des rythmes et des objectifs de modernisation qui ne sont plus les nôtres, que nous n'avons plus définis, nous, depuis notre expérience, notre projet, si nous en avons encore un, ce qui n'est pas du tout évident, mais qui en tout cas nous sont imposés par des processus qui nous ont échappé. Et c'est dans ce sens-là que nous disons, peut-être que maintenant la question qui se pose à nous est moins celle de la modernité que celle de la modernisation, ce qui ne nous dispensera évidemment certainement pas d'aller interroger pour comprendre ce que c'est que la modernisation et l'histoire de la modernisation et son devenir, son présent et son futur, aussi ce qu'auront été, non pas la modernité, mais les modernités, les post-modernités, ce que nous appelons aussi les hyper-modernités et même les anti-modernités. Alors, ça c'est un premier élément de contexte qui nous donne à penser en ce moment. Le deuxième élément de contexte, je dirais qu'on pourrait l'indexer sous le nom de Jarrell Diamond, dont on parlait ce midi, le géographe américain qui au départ est un biologiste, et ou encore en France dans un discours qui est beaucoup plus classique et plus ancien que celui de René Passet, qui est la rencontre des limites. La modernité se confronterait à une question d'un nouveau type de modernisation ou d'une limite de la modernisation, même dans le fait que l'expansion du processus de modernisation aurait abouti à produire des phénomènes de limitation, en particulier sur le plan, appelons-le environnemental ou des choses comme ça, c'est-à-dire ce que Passet avait appelé des problèmes de passage aux limites, lorsqu'il expliquait que, dans l'économie qu'elle vivait, le développement d'un certain nombre de puissance libérée par la modernisation aboutissait ou allait aboutir dans des échéances qui allaient de 20 à 50 ans pour lui, en particulier les problèmes démographiques, etc. Enfin bref, que tout ce que nous voyons maintenant, Passet l'a formulé dans les années 80 comme un problème fondamental. Ici, une des questions que je pose moi, c'est qu'est-ce qu'on fait du discours de Ulrich Beck par rapport à ce type de questions, bon, avec son concept de modernité réflexive et ou peut-être de modernisation réflexive, ce qui n'est plus tout à fait la même question que modernité réflexive. Troisième point, presque contradictoire avec ce que je... Enfin, pas contradictoire, mais dans un couple étrange avec ce que je viens de dire à l'instant, nous abordons des continents en ce moment même de ce que j'appellerais l'illimité. Et je parle principalement des technologies, de ce qu'on appelle les technologies transformationnelles, les biotechnologies, surtout les nanotechnologies, qui, on le sait, enfin on le dit en tout cas beaucoup, en ce moment même, dans cet institut, nous menons aussi un séminaire sur les nanotechnologies, parallèlement à celui-ci, sont en train, ces technologies, de redistribuer très, très, très grandement les cartes fondamentales, je dirais, des questions de productivité, de nouveaux marchés, etc., etc., et semblent, par ailleurs, ouvrir des possibilités quasi illimitées, où les pouvoirs de l'être humain semblent ne plus rencontrer de limites, où ce que j'avais dit ici même il y a 2 mois, c'était que les socles qui restaient stables, même dans une société moderne, qui étaient la matière physique d'une part et la matière vivante d'autre part, sont devenus eux-mêmes instables, individuables, transformables, pas en totalité, mais extrêmement profondément, et donc deviennent à nouveau un champ de transformation. Ce qui fait que nous avons le sentiment de pouvoirs nouveaux immenses qui apparaissent dans une situation très paradoxale, qu'on pourrait caractériser de la manière suivante, à savoir que, d'une part, de nouvelles formes de puissance économique sont apparues par ailleurs, dans des pays comme par exemple la Chine et l'Inde, et en même temps un immense sentiment d'impuissance semble s'installer, et pas simplement en Occident, y compris dans ces pays-là. Alors la Chine, je n'en sais rien, même si les amis qui sont là-bas en ce moment me disent que c'est aussi quelque chose qui apparaît, mais en tout cas en Asie, ce sentiment d'impuissance, les questions liées à l'expérience des limites dont je parlais tout à l'heure, sont aussi, semble-t-il, des thèmes qui commencent à s'imposer. Voilà. Dans ce contexte-là, qui constitue ce que un de nos amis Tom Cohen appellerait un nouveau climat, Tom Cohen, qui est un professeur de philosophie de l'université de Albany, est en train de monter avec l'université de Buffalo aux États-Unis un institut du climat, mais il prend le mot climat en un sens spirituel, un nouvel état d'esprit mondial, qui serait un état d'esprit confronté à tous ces paradoxes. Dans ce contexte-là, il semble que la modernité ne soit plus tout à fait de saison, ou que le mot, en tout cas, modernité, soit ne convienne plus, soit sonne un peu fêlé. Et que, en tout cas, l'esprit de la modernité, j'emploie un mot que vous avez beaucoup employé vous-même, mais pas à propos de la modernité, mais du capitalisme, serait en question. En fait, je crois qu'on ne sait plus ce que c'est que la modernité, ce que c'est que le projet de la modernité, sachant que peut-être la modernité était essentiellement un projet, précisément. Et face à ce projet, on se retrouverait confronté à, non pas un projet, mais à un processus. Un processus qu'on appellerait la modernisation, qui n'est ni désiré, ni voulu, ni conduite. Et qui donc se déroule de manière quasiment aveugle. Et évidemment, la question qui est ici, c'est le marché, aussi, bien entendu. Parce que tout ça se fait dans un contexte de libération presque sans limite désormais dans tout territoire du monde des lois du marché. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous vous avons invité, comme je vous l'ai dit par ailleurs dans un projet qui est dans les semaines qui viennent maintenant, dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, de consulter au niveau international, on peut dire mondial, parce que tous les continents sont concernés, sauf l'Océanie pour le moment, mais ça viendra peut-être. Mais sinon, absolument tous les autres continents sont concernés. Nous avons l'intention de demander à des personnalités diverses et variées du monde, principalement intellectuelles, mais ça peut être aussi des architectes ou des artistes ou des scientifiques, éventuellement, d'interroger ces personnes-là depuis leur savoir, depuis le pays où elles habitent, sur ces questions modernisation, modernité, mais aussi comment a été vécu, est-ce que la postmodernité existe encore, par exemple au Brésil, au Japon, est-ce qu'il y a encore un discours de ce type-là, comment ces questions d'explosion, si c'est ressenti comme tel, du projet moderne, en Amérique latine, par exemple, en effet, l'Amérique latine a été très porteuse d'un projet moderne. Comment est-ce que ça se traduit, comment est-ce que c'est vécu, etc. Et nous voulons le faire dans un style un peu particulier, puisque nous voulons le faire en utilisant la vidéo, et non pas en demandant aux gens d'écrire des articles, mais en leur adressant des questions. Donc, je dis cela parce que, finalement, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la deuxième partie de ce séminaire depuis le mois de janvier. La première partie, c'était une façon que Pierre Damien Huyghe avait un peu de faire un état des questions, avec, je dirais, une tradition de réflexion qui passe par Baudelaire, par toutes sortes de références qu'il maîtrise très très bien sur ces questions de la modernité, et beaucoup d'autres. Et dans cette deuxième phase, c'est plutôt une phase de commencer à essayer de nous mettre en ordre de fonctionnement, si je puis dire, pour mobiliser cette fois-ci des ressources externes et faire venir des questions que nous ne posons pas. Parce que ce que nous cherchons, évidemment, surtout, c'est les questions que nous ne nous posons pas. Mais en essayant de poser 2 ou 3 ou 10 questions, qui vont déclencher de la part d'Indiens, de la part de Japonais, de la part de Brésiliens ou d'Israéliens, un exotisme de questions, si je puis dire, qui viendrait nous bouleverser. Parce qu'une des hypothèses, c'est que non seulement la modernisation viendrait détruire la modernité, mais que notre modernité ferait obstacle à notre modernisation. Et là, je parle de la modernisation, et la modernisation des Européens. Et aussi, dans une certaine mesure, peut-être des Américains du Nord. Peut-être, ce qui n'est pas sûr. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous avons convié, et je vous en remercie très chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce séminaire, et puis à la suite de toutes ces opérations, y compris à ce colloque qui aura lieu au mois d'octobre. Mon idée de départ, je le redis, c'était de vous inviter avec Marcel Gauchet, parce que je souhaitais, moi j'ai été extrêmement frappé, je dois d'ailleurs dire à Georges Collins que c'est lui qui m'a fait lire votre livre, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, j'ai été extrêmement frappé de la mobilisation que vous faisiez de Max Weber, et de la question de la motivation, tout au début de ce livre, et tout ce qui s'est déroulé après. Alors, on en a parlé à midi sur certains points dans la suite, moi j'ai des analyses différentes des vôtres, mais le point de départ fondamental que vous avez mis en œuvre avec F. Chapello est pour moi très très important, et c'est une réaffirmation de du caractère absolument incontournable de Max Weber dans cette affaire, avec la question de la motivation, avec la question de la rationalisation, avec la question du rapport au calcul, à la religion bien entendu, etc. C'est dans l'esprit de discuter de tout ça avec vous depuis ce que vous avez pu faire sur Max Weber et sur l'esprit du capitalisme, aujourd'hui bien entendu, que je m'étais permis de vous solliciter, et dans le souhait d'ouvrir une discussion avec Marcel Gauchet par ailleurs. Et mon idée était de vous demander aussi de réagir au discours de Ulrich Beck. Donc je pense que personnellement je pense qu'il est important. Je suis assez critique sur beaucoup d'aspects de ce discours, mais je pense qu'il a été en tout cas ignoré en France largement, et qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui se joue dans ce discours-là, qui était un discours qu'il a tenu contre le postmodernisme de Lyotard, hein, c'est très très clair, il le dit dès le début. Et moi, je voudrais vous avouer que j'ai découvert ce texte tout récemment, dans le cadre de la préparation de ce colloque, il y a un an, et j'ai été vraiment impressionné par toutes sortes de questions. Excusez-nous, on vous a pris... Vous n'avez pas entendu que je parlais. Et frappé, évidemment, là aussi, de la filiation weberienne de ces questions. Même si on peut discuter après de... Voilà. De est-ce que c'est vraiment weberien ou pas, tout ça. Mais, là-dessus, lorsque j'en ai parlé à Marcel Gauchet, il m'a dit... je ne suis pas sûr que ce soit vraiment Beck qui soit en jeu là, c'est plutôt Giddens. Donc c'est plutôt de Giddens qu'il faudrait discuter, de Anthony Giddens, avec les concepts de la modernité de Giddens. Etc. Bon, ça, quand Marcel Gauchet viendra ici, nous en reparlerons. Parce que moi je crois qu'il y a quelque chose chez Beck qui est tout à fait spécifique de Beck, qui ne se réduit pas à Giddens. Quoi qu'il en soit, vous disant tout cela, pour vous pressentir, comme on dit, vous m'avez proposé de parler moins du désenchantement, parce que il y a un aspect de désenchantement aussi dans notre projet. Nous aurons une séance dans un mois et demi avec quelqu'un qui s'appelle Dany Robert Dufour, qui travaille sur le problème de la désymbolisation, qui lui aussi mobilise Max Weber, mais alors beaucoup plus du côté du désenchantement, au sens où Gauchet précisément a pu le mobiliser. Il cite d'ailleurs énormément Marcel Gauchet. Et vous m'avez dit, moi je m'intéresse plus à la rationalisation et à la modernisation. Enfin, là je ne veux pas parler à votre place, je ne sais pas ce que vous m'avez dit en plus, mais vous étiez plus désireux de parler de la modernisation, et notamment des discours sur la modernisation dans les années, disons les 30 dernières décennies françaises. Voilà. Sachant que finalement, après avoir eu une conversation avec vous, je suis revenu vers Marcel Gauchet, qui m'a dit, dans ce cas-là, moi... je ferai quelque chose sur modernité et modernisation chez Weber, qui sont des concepts qu'on ne trouve pas chez Weber, n'existent pas. Mais comment ces problématiques de modernité et de modernisation, on pourrait les interpréter depuis Max Weber, dans le langage de Max Weber. Alors ça, je trouvais ça très très intéressant, puisque vous avez fait cette proposition. Et donc la proposition, c'était de repartir sur les discours qui seraient tenus en France, la vôtre, dans les années 60 et 70, y compris votre propre travaux avec Pierre Bourdieu, sur la question de la modernisation, dans ces moments qui, on pourrait dire, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, constitueraient les deux dernières décennies de l'État moderne. D'un État moderne qui se pense comme dans l'évidence de lui-même, si je puis dire. Voilà. C'est un peu ça le paysage du travail que nous faisons ce soir. Voilà. Et ce que nous vous proposons, c'est une... Donc je vais vous laisser la place. C'est une intervention comme vous l'entendez sur ces questions. Et ensuite, une discussion extrêmement ouverte avec Pierre Diamant-Huyghe et toutes les personnes présentes ici. Où nous vous soumettrons aussi les questions que nous voudrions poser à nos amis qui accepteront d'entrer dans ce jeu comme vous, mais à l'étranger. Voilà. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Pierre-Damien ? Non ? Alors, je vous laisse la place. Je vais prendre la vôtre. Oui, donc ce que bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Comme je l'ai dit, j'ai pas eu le temps de préparer une vraie réflexion. Donc ce que je vais dire va être un peu improvisé ou léger. Je partirai de modernisation d'il y a 30 ans. Et puis à la fin, s'il reste un peu de temps, je dirais un mot, mais alors qui là aussi sera mal articulé parce qu'il est lié au travail que je fais actuellement et sur lequel j'ai pas arrêté la réflexion. Voilà. Donc quand Bernard Stiegler m'a parlé de son projet. J'ai évidemment pensé à des souvenirs d'enfance, j'allais dire, à quelque chose que j'avais fait avec Bourdieu dans la revue qu'on avait créée ensemble quand j'étais son assistant en 1975. Et évidemment parce que les caractères de la modernisation se voient beaucoup mieux quand on les prend dans le passé que dans l'actuel, parce que dans l'actuel, ils ont espèce de d'urgence. C'est comme les horoscopes, si vous voulez. Au fond, quand on lit l'horoscope de la semaine suivante, on a toujours l'impression que c'est vrai. Quand on lit l'horoscope de la semaine passée, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? C'est pareil. Et donc, nous avions fait ensemble un numéro, qui était un des premiers de la revue Hatt, à l'époque, où c'était fait à la main... sur le modèle du fanzine de BD qui s'appelait Schtroumpf, donc c'était un pur produit post-mai années 70. Et le numéro s'appelait « La production de l'idéologie dominante ». C'était composé pour l'essentiel d'une analyse de la littérature réalisée par les élites d'alors, qui étaient des élites modernisatrices gaulliennes, libérales giscardiennes, et des... social-démocratie déclinante autour du plan. Et à la frontière entre l'ancien management, à la frontière entre les deux managements qu'on a analysés avec F. Chiapello dans le Nouvel Esprit du Capitalisme, à la frontière d'ancien management des années 60 et du nouveau qui va se mettre en place dans les années 80. Et donc l'idée que je vais suivre sont des voies très différentes, d'ailleurs de celles du papier d'il y a 30 ans, et essayer d'illustrer, là, avec des extraits du papier d'il y a 30 ans, c'est la suivante, c'est que la croyance principale de ces élites modernisatrices est celle du fatalisme du probable. Elles disent vouloir l'inévitable, parce que l'inévitable est nécessaire. Et donc, à la base de l'idée, on va dire, classique de modernisation, il y a donc l'idée assez étrange, quand on y pense, il faut vouloir la nécessité.
On est habitué à associer cette idée au débat se réclamant du marxisme sur la classe en soi et la classe pour soi, la crise fatale du capitalisme versus il faut quand même mobiliser les masses pour faire advenir la révolution. Mais pourquoi la révolution si de toute façon le capitalisme va s'effondrer, etc. Mais il me semble que l'idée selon laquelle il faut vouloir le nécessaire a une portée beaucoup plus générale, qu'elle est à la racine de l'idée moderne de modernisation, et qu'on la voit donc se manifester dans cette France gaulienne et post-gaulienne des années 60-70. Alors, je pense qu'on la voit... je pense que les hommes politiques aujourd'hui voudraient pouvoir s'y accrocher toujours, parce qu'ils n'ont absolument pas d'alternative. Je suggérerais, j'en donnerai un exemple, et puis je suggérerais une raison pour laquelle, à mon sens, qui rejoint ce que vous avez dit, à mon sens, c'est devenu extrêmement difficile. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur des exemples de la façon dont cette idée se manifeste dans la France des années 70 et rapidement aujourd'hui. Dans les deux cas, il s'agit, me semble-t-il, de réponse à mai 68. Mais il y a 30 ans, au fond, ce qu'il fallait contrer sur son terrain, c'était la critique sociale. Et aujourd'hui, ce dont il faut se débarrasser, c'est plutôt de ce que nous avons appelé, mais je ne vais pas revenir là-dessus dans le nouvel esprit avec Ève, la critique artiste. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre vouloir la nécessité, qui est une formule, au fond, paradoxale, parce qu'elle lie la référence à un en soi, à une objectivité, à un dehors, qui aurait la faculté de s'imposer, et à un pour soi, à une subjectivité, susceptible de se retourner vers cet en soi pour le vouloir et faire corps avec lui. Alors, donc, en m'éloignant de l'article publié il y a 30 ans, je suggérais qu'il y a sous-jacent à cette position deux idées qui se mettent en place dans leur forme moderne au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est-à-dire autour de la Révolution française. Et j'irai chercher la première idée chez un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bernard Yack, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « The Longing for Total Revolution », qui est paru à Princeton en 1999, et la seconde chez un historien américain qui est mort maintenant, Leonard Krieger, qui a écrit « Times, Reasons, Philosophy of History, Old and New », publié en 1989 à Chicago, University of Chicago Press. Alors, qu'est-ce que dit la conjugaison des deux va nous donner une version qui peut basculer aussi bien vers, dire vite, la gauche ou vers la droite de l'idée de modernisation. Bernard Yack part de réflexions menées dans le cadre de l'idéalisme allemand sur l'échec de la Révolution française. Les auteurs qui l'analysent déduisent de cet échec qu'une révolution accomplie seulement sur le terrain politique est insuffisante pour résorber les motifs d'insatisfaction face au monde tel qu'il est. Il pense donc qu'il faut creuser sous le politique pour dévoiler les forces qui, s'exerçant au plan sociétal, entravent l'accès des hommes à une pleine humanité. La révolution totale consiste alors à identifier et à dévoiler ce qui, dans le cœur des relations sociales, entrave la pleine réalisation de l'humanité, puis à transformer radicalement les conditions sociales de façon à permettre l'apparition d'un homme dans lequel l'humanité sera pleinement réalisée. Le changement proprement politique passe alors en position subordonnée. Il sera conçu comme le résultat mécanique de la révolution totale, non comme son origine. Le terme de révolution totale est introduit d'après Yack par Schiller dans l'éducation, les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, qui identifie la source principale d'insatisfaction dans la sphère des relations esthétiques. La même idée se retrouvera évidemment chez Marx, qui la transporte dans la sphère des relations économiques et des rapports de propriété. Alors, la seconde idée chez Leonard Krieger. Krieger part de l'histoire et de la différence entre l'histoire et la chronique, les deux étant évidemment narratifs, des récits. L'histoire au sens moderne du terme suppose le recours à un ordre séquentiel et à une forme de cohérence. Cette cohérence permet à la fois de mettre en ordre des événements en les enchaînant de façon plus ou moins causale et peut-être surtout de sélectionner dans le flux de ce qui advient, de ce qui est advenu et d'ailleurs aussi le plus souvent de ce qui advient au présent, les événements qui vont être jugés pertinents et par contre-coup de rejeter tous les autres dans le registre de l'anecdote ou encore, comme dit l'économie néoclassique, de les traiter comme des externalités. En passant, il serait intéressant d'explorer l'usage des termes anecdote, anecdotique, qui, aussi bien dans le domaine de l'art, de la littérature, que dans celui de l'histoire et bien sûr aussi des sciences sociales, sont depuis maintenant longtemps, mais j'aimerais bien savoir depuis quand, utilisés de façon purement dévalorisante, comme des injures, quand on dit d'une pièce, là c'est anecdotique, ce décor il est anecdotique, ou cette histoire c'est de l'anecdote, c'est complètement dévalorisant. Mais, ajoute Krieger, alors moi j'adore l'anecdote, très souvent dans mon séminaire, quand mes thésards font un abus de concept, je leur demande de me redire tout, sans concept aucun, surtout pas les miens, et au moyen d'anecdotes, qui d'habitude les déstabilisent un petit peu, mais c'est un exercice, je pense, très, très important. Mais, ajoute Krieger, cette cohérence, cet ordre, ne peuvent jamais être trouvés, ça à mon avis c'est une idée très, très riche, ne peuvent jamais être trouvés dans l'histoire elle-même. Le flux événementiel en tant que tel n'offre pas de lui-même la possibilité d'une mise en ordre. Et cela particulièrement quand on fait varier les échelles. Là, je renvoie au livre de Jacques Revel, Jeu d'échelle, et que l'on passe, par exemple, d'un drame de famille, d'une émeute locale, d'une grève à la suite de la fermeture d'une entreprise, tout ce que vous voulez, à une échelle plus large, englobant de vastes étendues sur une longue période. Le sens ordinaire de la causalité peut servir à lier quelques événements proches, c'est d'ailleurs ce que fait la chronique, mais il est pris en défaut dès que la dimension de l'échelle adoptée s'accroît, et plus encore lorsque l'on veut se déplacer à travers des jeux d'échelle différents, parce qu'alors le nombre des médiations s'accroît, et que les médiations qu'il faut lier pour obtenir un récit se mettent à proliférer de façon très difficile à contrôler. Comme le principe d'ordre de cohérence ne peut être trouvé dans l'histoire elle-même, il faut aller le puiser à l'extérieur, et en quelque sorte superposer au flux des événements que l'on veut à la fois sélectionner et ordonner une autre histoire, une histoire extérieure, qui va évidemment jouer un rôle de détermination. Peut-être y a-t-il là une manifestation d'un phénomène plus général qui veut ce que l'on appelle communément le sens, ne peut jamais appartenir à un élément isolé, mais ne peut surgir que du rapprochement entre des éléments différents entre lesquels on établit un rapport. Le sens ainsi dévoilé dans cette acception étant d'ailleurs d'autant plus frappant, d'autant plus saillant que ces éléments semblent plus éloignés les uns des autres, soit par le domaine d'objectivité auquel il se rattache, soit par l'échelle dans laquelle il se manifeste. Cette extériorité plaquée sur le flux de ce qui se passe doit donc être empruntée à un registre constitué comme spécifique, autonome, susceptible d'être identifié en tant que tel, à la fois dans l'histoire et en dehors. Plusieurs caractéristiques de cette position. Il s'agit d'une part d'une approche qui a évidemment des similitudes avec le cercle herméneutique. Cette extériorité ne peut être reconnue qu'au prix d'un déchiffrement du flux des événements. C'est dans le flux des événements qu'elle se donne à lire, mais en même temps, c'est parce que l'on dispose sous la main de cette extériorité que le flux des événements devient intelligible. D'autre part, cette extériorité est conçue elle-même comme temporalisée. Tout se passe comme si elle avait une histoire, ou plutôt le plus souvent, comme si elle était appelée à avoir une histoire, mais à condition de se réaliser en s'incarnant dans l'histoire des sociétés humaines. Cette extériorité peut bien sûr être recherchée dans différents registres. évidemment dans le religieux, et l'idée d'une extériorité animant l'histoire a bien sûr, au moins pour une part, une origine théologique, particulièrement dans les religions révélées, avec l'histoire du salut. Peut-être chercher dans la philosophie, comme un déploiement de l'être, dans ce qu'on appelle la nature, avec une histoire de l'évolution servant projetée dans l'histoire humaine. Elle peut être aussi prise dans le registre des activités humaines, mais elle est alors détachée et absolutisée de façon à ce que le cumul des activités humaines produise un destin qui va s'imposer à chaque homme. On peut ainsi, particulièrement depuis le XVIIIe siècle, et les sciences du gouvernement, ou ce qui revient au même d'ailleurs les sciences sociales, aller la chercher dans l'économie, la démographie, la science et ou la technique. On peut en faire une histoire de la rationalisation, qui est d'une certaine façon le cas de Max Weber, ou une histoire de la conscience, allant dans le sens d'une réflexivité plus grande et d'une autonomie croissante. Je pense que de nos jours, la référence à la thématique écologique joue, on cherche à lui faire jouer à peu près le même rôle. Une des propriétés principales de ces différentes extériorités est d'être doté d'une quasi-volonté, mais en quelque sorte d'une volonté aveugle, particulièrement sur le plan normatif, ce qui leur donne le caractère de force, mais on va le voir de force impuissante, d'une façon. Pourquoi une quasi-volonté? Parce que ces êtres extérieurs, invoqués pour donner une cohérence à l'histoire, n'ont pas de corps propre. Ils doivent donc s'emparer des corps des humains, un peu à la façon des démons dans les mythologies, pour agir par leur truchement. Leur volonté possède donc le caractère paradoxal d'être à la fois absolue et relative, fragile, toute puissante et impuissante. Alors, vouloir la nécessité. Cette conception de l'histoire affecte profondément le sens de l'action politique telle que l'ont compris au moins, et que cherchent à la comprendre les hommes politiques, et sans doute plus généralement les détenteurs d'un pouvoir, ceux qui doivent gérer des organisations, tous ceux que l'on appelle les responsables. Voici comment, à mon sens, ils comprennent leur rôle et leur responsabilité. Leur rôle est précisément de moderniser, c'est-à-dire de vouloir la nécessité, c'est-à-dire de vouloir la volonté des forces qui s'imposent et qui s'imposeront à tous. L'idée sous-jacente est la suivante. Elle prend appui, à mon avis, sur une métaphore assez ordinaire qui est celle des forces dites de la nature et sans doute particulièrement du vent, telle qu'on a pu la concevoir après des millénaires de marine à voile, comme étant une force qui d'un côté s'impose, détruit, et de l'autre qui peut être domptée. On peut dériver sous le vent ou remonter à l'aide du vent contre le vent. Il revient donc à ses responsables, avec l'aide d'experts, c'est-à-dire malheureusement nous, ce qu'on est supposé être, d'identifier là où les forces dont la quasi-volonté est la plus puissante, et de les comprendre. Mais ces forces sont aveugles et particulièrement indifférentes sur le plan normatif. Elles peuvent faire le bien, le mal. Les hommes peuvent reconnaître ces forces ou les ignorer, les accepter ou les refuser. Pourtant, le fait de les ignorer ou de les refuser ne les empêche pas de se réaliser en s'emparant des corps de ceux-là même qui les refusent. Mais s'ils la refusent, je vous décris évidemment une croyance, s'ils la refusent, cette force a toute chance de les détruire. Au contraire, si les hommes associent leur volonté à la nécessité de ces forces, s'ils veulent la nécessité qui s'impose à eux, s'ils font converger l'objectif et le subjectif, ce qui existe en dehors d'eux et leur subjectivité, alors ces forces s'incarneront d'une façon qui leur sera globalement profitable. Globalement veut dire bien sûr qu'il est entendu qu'on ne pourra pas les empêcher de faire force dégâts, de détruire. Mais cette destruction sera productrice, un peu comme dans la vision schumpeterienne de l'économie. Être moderne pour un homme politique, c'est donc accepter d'abandonner l'ancienne vision de la politique comme volonté des hommes, d'un homme ou d'un groupe d'hommes, pour identifier la force qui s'applique de la façon la plus absolue, se mettre à son service, l'aider à s'incarner, comme si le fait de la vouloir était une façon et la seule façon de l'enjôler et de l'enrouler. Alors, la modernisation. Dans la pratique, les hommes politiques, les responsables, associent l'idée de cette force avec celle d'un espace diversifié, composé d'entités en compétition. Parce que ce qui s'exerce sur eux, c'est évidemment la pression d'autres organisations, d'autres pays, d'autres écoles d'art, d'autres, etc. La façon la plus commune d'identifier là où les forces dont la volonté est la plus puissante est de prendre appui sur cette compétition en considérant que les entités qui l'emportent dans la compétition sont celles qui ont su incarner les forces dominantes et qu'en comprenant pourquoi elles gagnent, comme on dit si souvent aujourd'hui, on comprendra ce que sont ces forces et où elles sont. Mais bien sûr, l'idée même de compétition, c'est ce qu'ignorent le plus souvent les politiques, suppose que l'on se soit accordé sur des investissements de forme, comme dit Thévenot, permettant de rapprocher et de hiérarchiser des faits et gestes définis comme performance. Il faut par exemple, à cet effet, que l'on ait adopté une forme de mise en équivalence permettant de hiérarchiser des accomplissements en constituant, par exemple, des listes établies au moyen de critères de rating. C'est dire évidemment que l'idée de compétition elle-même ne prend sens qu'une fois reconnue la prééminence d'une force sur les autres, son caractère absolu, et que là encore, l'identification de la force et les moyens utilisés pour l'identifier font cercle. La compétition et la métrologie sur laquelle elle repose permettent de dire qui est en avance et qui est en retard par rapport à la volonté de cette force. La modernisation consiste alors à s'efforcer de combler ce retard. C'est dire que l'idée de modernisation, y compris chez les responsables politiques ou d'organisations les plus limitées, est indissociablement métaphysique et terre à terre. Quand on lit les propos d'hommes politiques, ils sont comme le chrétien dans la blague là, qui louche parce qu'il a un œil qui regarde vers le ciel et l'autre qui regarde vers la terre. Donc les responsables modernisent. C'est-à-dire qu'ils accompagnent les destructions associées à l'application d'une force. C'est-à-dire, en fait, qu'ils accomplissent ces destructions, puisque la force est inconnue. Mais avec pour justification que cette destruction s'exercerait de toute façon et que cela serait pire s'ils ne mettaient pas la main à la pâte. Soit dit en passant, on entend cela très souvent actuellement dans les milieux où je vis, dans les milieux universitaires, où de grands changements s'accomplissent, et on nous dit, ces changements se feront de toute façon, alors il faut les accompagner. C'est ce que disaient aussi dans d'autres temps des gens qui faisaient partir des trains, mais on va laisser ça. Ceci étant, même si c'est dans le meilleur des mondes possible, ils détruisent. Et comme ce sont des responsables et pas des bandits, ils manifestent de la compassion à l'égard de ce qu'ils détruisent, et entendent atténuer les souffrances des malheureux qui subissent ces destructions parce qu'ils sont en retard, qu'ils n'ont pas pu suivre, qu'ils sont incapables, qu'ils ont de mauvais gènes, comme c'est le cas de tous ceux qui n'ont pas pu reconnaître à temps quelle était la bonne force et incarner la volonté qui s'exerçait sur eux. Alors, je vais maintenant vous donner quelques exemples qui, j'espère, vous feront rire, ceux du passé. Je vous donnerai, et puis, un exemple actuel, et puis je dirai un mot, si vous me le permettez. Comment ? Du problème qu'a posé Bernard Stiegler. Alors, quand on avait fait ce numéro d'acte de la recherche. Donc, tout ce qu'il y a de post-68 art, qui se voulait au moins un peu irrespectueux ou un peu drôle. On faisait les maquettistes qui étaient des copains à moi étaient des dessinateurs de BD. Et donc on avait fait une analyse de une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus, d'ouvrages publiés par des gens oubliés aujourd'hui comme Armand et Drancourt, Plaidoyer pour l'avenir, Pierre Bauchet, La planification française, François Dalle, L'entreprise du futur, Fourastier, Poniatowski, Conduire le changement, etc. Bon. Et puis on les avait organisés, les extraits, sous forme d'un dictionnaire. Donc voici la photocopie de la page de Garde. Et il n'y avait pas à l'époque de micro-ordinateur, donc c'était du fait main, c'était découpé à la main et collé. Et donc je vais vous lire quelques entrées de ce dictionnaire. Par ordre alphabétique, comme il se doit. Accélération. Le monde a un rythme de plus en plus le monde au rythme de plus en plus accéléré dans lequel nous entrons. Crozier. Agriculteur. Alors on a beaucoup utilisé une brochure, un petit livre dont j'avais parlé à Bernard Stiegler, mais je n'ai pas eu le temps d'aller à la BN pour le rechercher. Qui date du début des années 60, du milieu des années 60, et qui s'appelait Réflexion pour 1985. Ça date de 64, qui était donc de la prospective, évidemment, assez croquignolesque à lire aujourd'hui. La population active agricole serait réduite de moitié d'ici à 1985. Les conditions d'existence des agriculteurs auront tendance à se rapprocher de celles des autres travailleurs, salaire, durée de travail, congé, retraite, logement, culture, accès aux distractions, aux loisirs. Cette évolution doit être encouragée. Ce n'est qu'à cette condition que de jeunes agriculteurs dynamiques et leurs épouses consentiront à travailler dans ce secteur. Pour que la productivité puisse croître au rythme prévu, il faut en effet que l'agriculture cesse d'être un secteur refuge, etc. Un réseau non intégré d'agriculture de subsistance existera, agriculture folklorique, retraités, mais surtout alternance, tourisme, agriculture. Donc, réflexion pour 1985. Amérique. Les USA constituent un modèle sociologique de 10 à 15 ans en avance sur nous et de 30 à 40 ans sur les pays de l'Est. Armand. Les Américains qui nous précèdent dans l'évolution actuelle. 85. Économiquement, un Américain vaut 3 Français. Arrière-garde. Ça, c'est Poniatowski. Les uns, saisis d'angoisse, ont des réactions de défense et de refus aveugles et combattent désespérément à l'arrière-garde. D'autres, au contraire, tombent dans l'excès inverse et exigent l'adoption immédiate de mesures radicales allant au-devant et plus souvent encore à côté de l'avenir qui nous attend. Ainsi, les passionnariats du MLF et les nihilistes et les gauchistes professionnels de la destruction. Automobile, 1985. L'appétit de motorisation reflété par la fortune croissante de l'automobile répond à un besoin impérieux de l'individu. En 1985, il y aura, etc. Avenir, ça c'est ce monsieur Bauchet, donc un planificateur. Autrefois, l'histoire apparaissait comme une série d'événements sans lien et interchangeables. Il était difficile d'avoir une action coordonnée, consciente, dépassant l'événementiel. Les individus ne savaient pas pourquoi, ni surtout dans quelle direction ils travaillaient. Aujourd'hui, grâce au progrès convergent des sciences biologiques, historiques, naturelles, nous sentons qu'il existe un passé et un avenir en relation étroite. Chaque élément apparaît nécessairement lié à un élément précédent et ce, indéfiniment en remontant dans le passé. Cet ordre des choses est irréversible. Les civilisations, les hommes, les industries passent par des phases d'enfance et de maturité. Ils sont situés dans une histoire. Concrètement, cela signifie que pour l'ensemble des Français, il existe un avenir qui se réalisera grâce à leurs efforts présents.
Alors, je continue un peu ou vous en avez assez?
Alors, bon, je vais laisser passer le bonheur. Ah, je vais lire cerveau, quand même, ça c'est drôle, 1985. La réceptivité, la plasticité du cerveau varie certainement selon l'âge, l'environnement, l'hérédité et la formation antérieure. Il serait d'ailleurs dès à présent essentiel qu'un ensemble de physiologues, sociologues, psychologues, médecins et enseignants se penchent sur ce problème pour tirer un meilleur et plus sage parti du cerveau humain. Ensuite, il y a des choses sur le cerveau reptilien, il aimait beaucoup ça à l'époque. Cinétique, tiens, ça vous, dans ce lieu d'art, je vais vous dire cinétique. Le territoire et les villes peuvent être aménagés en fonction du loisir, route de détente et de spectacle cinétique. Ça, c'est 1985. Jehan Saint-Gyours. Vasarely nous donne un exemple plus probant, et on va le voir plus fondamental, de cette activité créatrice de l'esprit et de l'imagination, à la fois autonome et intimement sensible au monde, tel qu'il se découvre peu à peu à nous. Tout d'abord, il tente de traduire pour tous par ses inventions plastiques l'explication scientifique du monde. Qu'est-ce que je veux dire ? Coiffeur, bien coiffeur, c'est bon. Le tertiaire est extrêmement rare en Amérique. Tout le monde, par exemple, cherche des domestiques et peu de personnes en ont. Les femmes, même, pourtant si soignées, ne vont presque jamais chez le coiffeur parce que le coiffeur est très cher. Ça, c'est Fouratier. Croissance. Une société en état de croissance est une société penchée en avant. Ça, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber. Non, c'est Giscard. Non, 85. C'est 85. Servan-Schreiber. Quand on découvre de quel enfer nous a tiré la croissance, on sait à jamais qu'il doit être l'objet de tous nos soins. L'évolution du monde moderne permet d'observer la manifestation d'une tendance inéluctable vers une augmentation de la dimension. Quel désert ! Il est inévitable qu'à côté de régions où les conditions de vie et de peuplement seront analogues à ce qu'elles sont en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne, il y ait des déserts en France et le clivage ne pourra s'accentuer entre ces deux types de zones. Les déserts sont une rareté en Europe occidentale. En tant que zone de loisirs de liberté, ils seront donc recherchés. Désuétude, évidemment. Élimination. Il est certain qu'il y a lutte, mais il est non moins certain que la violence est à proscrire et que tout l'humanisme occidental, conscient de la part de violence que recèle toute élimination, s'est constamment efforcé de préserver l'homme, d'en être l'enjeu, comme de lui épargner les souffrances qu'elle entraîne. Donc ça, c'est, il faut aider les exclus. 85. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, je pourrais vous en lire encore des kilos comme ça, fatal, évolution, exclu, mais quoi, c'est un peu toujours le même tabac. Alors, comme j'ai préparé ça aujourd'hui de façon un peu rapide, j'ai amené qu'un texte pour aujourd'hui, qui peut sembler paradoxal, mais qui en même temps, je pense, est le dernier effort pour sauver la modernisation. C'est un texte qui est paru dans Le Monde la date de novembre 2006, signé par un collectif, mais à mon avis, parce que j'ai reconnu des thèmes qu'il y avait dans un de ses livres qui s'appelait « Écrit il y a 10 ans », la nouvelle question sociale, à mon avis, fortement inspirée par Rosan Vallon. Et donc, ça s'appelle « Manifeste pour l'économie solidaire », qui est un domaine que je connais un peu grâce à un de mes étudiants excellents qui a fait sa thèse sur l'économie solidaire. Et donc, ça part d'un sentiment aussi bien pensant que louable. Aujourd'hui, l'économie produit des richesses impressionnantes qui sont réparties de façon inéquitable. Elle génère la précarité, l'exclusion, elle ignore les besoins collectifs, etc. Il faut recréer un triangle vertueux entre l'emploi, la cohésion sociale, la démocratie. Et permettre aux plus fragiles de vivre. Malgré tout, même les plus fragiles doivent continuer à vivre. Ces entreprises solidaires se battent sur le marché comme les autres, doivent donc être performantes, mais en plus, elles emploient des personnes exclues ou qui risquent de l'être. Ça, c'est les fragiles. Alors, elles ont des ressources mixtes, paiement par les clients, aide nationale et locale, engagement bénévole. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles font ce que ceux qui font de la thune ne font pas, s'occupent du logement des exclus, de l'éducation populaire, de l'aide aux personnes, du recyclage, de la protection de l'environnement, etc. Une économie de proximité, parce que la proximité, on ne peut pas la délocaliser. Et la vieille grand-mère qu'il faut aller nourrir, on ne peut pas faire ça par un Chinois. Font du recyclage, à la fois des objets et puis des personnes qu'elles réutilisent. Et donc ensuite, il y a une série d'appels aux financiers pour qu'ils financent, à l'État, etc. Et ça se termine par l'économie solidaire de proximité à l'ambition, non pas bien sûr de remplacer l'économie de marché, mais de s'attaquer aux problèmes des plus démunis, aux besoins individuels et collectifs délaissés par le marché et l'État. Cette ambition vaut aussi pour l'Europe et pour le monde, à nos concitoyens qui redoutent de perdre toute prise sur leur futur et celui de leurs enfants, nous envoyons un message de confiance. Alors, si on résume la thématique, un peu à la serpe, je dois dire, c'est la suivante, c'est l'économie de marché est irréversible. Le marché est à la fois le dispositif le plus efficace d'allocation des ressources et le plus juste, parce qu'il récompense les bonnes performances et les individus vraiment performants qui sont capables de les réaliser. La capacité à réaliser de bonnes performances, ça c'est rarement dit explicitement, c'est dit dans la nouvelle question sociale, dépend d'une donation biologique de base, on va dire. Parce que dans la nouvelle question sociale, il est dit que on ne peut plus fonder le social sur la statistique comme au temps de la loi des accidents du travail qui a étudié Ewald à la fin du 19e, parce que maintenant on sait qui sont les gens à risque, qui sont les bons, qui sont les mauvais, etc. Mais comme on n'est pas des chiens, il faut s'occuper de tous ces handicapés qui loupent leurs examens, qui boivent, etc. L'État doit réguler le marché, puisqu'on sait maintenant que l'idée de marché supportée entièrement par sa propre loi comme externalité, comme extériorité, pardon, plutôt, n'est pas juste, et que l'État et que le marché a besoin d'être régulé, mais le marché ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire, et donc il faut ces mixtes d'entreprises, de charité et d'ONG subventionnées par l'État pour s'occuper de tous ces malheureux, de plus en plus nombreux, à mesure que la compétition s'accroît, dont l'État ne peut pas s'occuper parce qu'il ne peut pas tout faire. Alors, je peux encore dire quelques mots. Donc, évidemment, comme le dit la fin de ce papier, on a toujours l'espoir que 30 ans après, donc les précédents discours, il y a beaucoup de points communs entre les deux. un peu moins de triomphalisme. Que 30 ans après, condition d'être bien moraux, de laisser tomber toutes ces bêtises de 68 sur la libération, l'interdiction d'interdire, etc. On va de nouveau maîtriser quelque chose comme du futur. Alors maintenant, je vais dire quelque chose que je vais. J'ai pas mes notes avec moi parce que je pensais pas en parler. Mais comme vous avez parlé de l'instabilité croissante, je voudrais dire un mot de mon travail actuel. J'essaie de construire un cadre d'une sociologie un peu plus pouvant englober différents types de sociologie, on va dire, et qui part de l'idée d'une incertitude radicale, mais pas seulement de notre monde en général, d'une incertitude radicale sur ce qui est, sur ce qu'il en est, ce qui est. Et sur une très grande difficulté à s'accorder sur ce qui est. Alors, si vous voulez, je construis cette sociologie contre ma sociologie, c'est-à-dire que je suis censé appartenir à un courant qui s'appelle la sociologie pragmatique, mettant l'accent sur la situation, sur l'interprétation, post-Wittgensteinien, etc. Et je pense que, post-Midien, c'est notre rapport, que pour une part, cette sociologie est tout à fait insuffisante, ce qui ne veut pas dire revenir à une sociologie en dur, durkheimienne, du genre c'était mieux avant, ou l'institution c'est important, etc. Qu'il faut sortir, au fond de ce dilemme à trois pôles, avec d'un côté, c'était mieux avant, il nous faut du tout autre, de l'institution en dur, et de la répression en vrai. De l'autre, une position, on va dire, déconstructionniste, dans un sens très large, de critique radicale qui va traquer sans arrêt le faux sous le vrai, et puis une position qui a été longtemps la mienne, d'ailleurs constructionniste, pas constructionniste, mais je suis fatigué parce que j'ai la grippe moi aussi, pragmatique, qui est, on va juste suivre les acteurs dans les situations, regarder comment ils interprètent, comment ils donnent sens, etc. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire de social qui tiennent à partir de l'intersubjectivité, pour dire vite, seul. Pour une raison simple, c'est que les individus n'ont que des points de vue. Dit chacun, c'est ton point de vue, mais moi j'ai mon point de vue. C'est la bonne vieille phénoménologie, moi je vois la pièce dans ce sens, vous la voyez dans ce sens, comment on va faire la synthèse entre les deux. Moi j'ai un corps, j'ai des pulsions, vous avez les vôtres. Alors, la solution trouvée par les humains en société, ça a été de déléguer la tâche de dire ce qu'il en est de ce qui est, pour tous, ou pour tous ceux qui sont là, ou pour un certain nombre de gens, à un être sans corps. Et c'est évidemment ce qu'on a appelé l'institution, qui est très différent d'une organisation. C'est l'institution, c'est l'être sans corps qui dit ce qui est. Mais comme il n'a pas de corps, il ne parle pas, cet être. Donc il lui faut des porte-paroles qui, eux, vont dire ce que l'institution a dit de ce qu'il en était, de ce qui est. Mais comme ils ont un corps, ils vont être assez facilement suspectés, ça plane de Rousseau à Bourdieu, de ne pas vraiment dire ce que dit l'être sans corps, mais de dire ce que dit leur corps, ce qu'ils veulent eux avec leur corps, avec leurs pulsions, leurs intérêts, leurs points de vue. Ce qui va donner un couple entre eux, une position durkheimienne de surplomb et puis une position critique déconstructionniste des institutions, etc. Alors, évidemment, le problème, mon travail consiste à essayer de reconstruire du social sur une impossibilité. Parce que je crois de plus en plus qu'au fond, le social est impossible. C'est-à-dire, cette impossibilité, ce que tout le monde sait, c'est on ne peut pas se passer de cet être sans corps qui va nous dire ce qu'il en est de ce qu'il est, dont le travail, j'appelle ce travail la confirmation, le travail de confirmation. Cette bouteille est bien abreuve. Moi, je disais que c'est une saloperie en plastique. Non, non, c'est une bouteille. Ceci est un séminaire. Bon, moi, je disais que c'est une causerie de salon. Non, non, c'est un séminaire. Avec mes étudiants, j'ai fait un topo. Vous appelez ça un séminaire. Alors, évidemment, en face, vous avez la critique qui va dire, vous appelez ça un. La confirmation va sans arrêt essayer de ramener le langage vers le monde et la critique va sans arrêt essayer de les défaire. C'est ça un séminaire. Alors, si vous voulez, ça se rend dans un schéma plus large où je distingue deux registres, qui est un registre que j'appelle pratique, dans lequel l'écart entre le langage et le monde n'est pas exploré, et un registre que j'appelle métapragmatique, la confirmation et la critique appartenant aux deux, mais je vous l'épargne parce que c'est pas tout à fait nécessaire à ce que je voudrais dire. Un point qui est relativement important, c'est que dans la construction que j'essaie de faire, la confirmation, le travail de confirmation n'a pas d'accès à la réalité. Je me donne un flux de la vie, une série d'événements, mais le travail de confirmation, dont les manifestations sont le rituel, le droit, grande manifestation d'intuition qui va dépouiller ce qui est, et j'appelle ça des épreuves de vérité, c'est-à-dire montrer la vérité de ce qui est en montrant les liens, en montrant la consistance de ce qui tient. N'a pas accès à la réalité. Dans mon schéma, seule la critique qui dit précisément « vous appelez ça un » a un accès à la réalité à travers des épreuves tout à fait d'un autre genre que j'appelle des épreuves de réalité. Et avec, au fond, derrière un schéma normatif qu'une situation sociale pas trop mauvaise est une situation dans laquelle épreuve de vérité et épreuve de réalité rentrent dans des relations, on va dire, quasi dialectiques. Alors, si on pose ça par rapport à la question de la modernité, du grand partage, on peut évidemment, comme mon ami Bruno Latour, refuser l'idée d'un partage de la modernité. Ou on peut... C'est une discussion que j'avais eue avec un autre ami qui est Philippe Descola sur la critique, puisque je m'intéresse beaucoup à la critique. Je souhaiterais beaucoup qu'il y ait un jour un vrai débat entre anthropologues, historiens, philosophes, sociologues sur la critique, sur les formes de la critique. Et Descola me disait, tu sais, peut-être que s'il y a un partage de la modernité, c'est la critique. Peut-être que dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas vraiment la critique, moi, telle qu'on la connaît. Alors, j'ai une hypothèse là-dessus qui est peut-être... je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Hein. C'est vraiment du travail en cours qui peut être abandonné dans 15 jours. C'est que, au fond, le problème, un problème des sociétés qui étudient l'anthropologie, mais également, d'une certaine façon, des sociétés antiques, c'est... la très grande difficulté de maintenir en place un monde qui tienne, tant soit peu, à cause de la multiplicité des métamorphoses. Notamment du fait de l'intervention imprévisible d'êtres surnaturels dans le monde. Alors, pensant ça, je me suis précipité sur Ovide, que j'avais, je veux dire, jamais lu, et qui est un ravissement, une merveille. Et évidemment, c'est bourré de dieux qui se transforment en taureaux, qui vont s'emparer de nymphes, de jeunes gens, de nymphes, de jeunes qui se transforment en arbres, en myrtes, etc. Évidemment, c'est pas un monde très facile à stabiliser. Alors, mon hypothèse, c'était que, au fond, dans ces sociétés, tout le travail métapragmatique, je ne dis pas ce que c'est parce que je ne veux pas prendre trop de temps, est occupé, ou l'essentiel, par la confirmation. Sans arrêt, bloqué tellement. Et qu'il reste très peu de place pour la critique. Et que, au fond, le déploiement de la critique a pu se faire de deux façons. D'une part, il y a certainement quelque chose qui est lié au judaïsme et au christianisme qui n'aimait pas la métamorphose, surtout le christianisme. C'est au fond, ce que le christianisme détestait le plus dans le paganisme, c'était la métamorphose. Parce qu'il y a des espèces créées, il y a un monde créé, et il y a des épiphanies. Par exemple, dans la Bible, Dieu peut se reconnaître dans un souffle qui passe. Mais il y a des anges, bien sûr, mais il n'y a pas de métamorphose. Au Moyen-Âge, il y a un retour de la métamorphose. Il y a un réintérêt pour Ovide. En fait, la seule métamorphose, c'est l'Eucharistie qui absorbe, en quelque sorte, cette pulsion humaine vers la métamorphose et la canalise. Il y a un très beau livre, mais je ne pensais pas en parler aujourd'hui, je ne trouve plus le nom de l'auteur. Une grande historienne américaine qui est à Princeton, qui vient de publier un livre sur le retour de la métamorphose au Moyen-Âge, sur les loups-garous notamment. Un problème qui devrait nous occuper plus que ça n'est le cas, les loups-garous. Et donc, je pense qu'un second élément de stabilisation, évidemment, ça a été, et qui est très problématique, ça a été le fait qu'on a délégué à quelque chose qu'on a appelé la science, la tâche qui était jusque-là dévolue aux institutions, de dire ce qui est, ce qu'il en est de ce qui est, et de le stabiliser. Évidemment, ça a dégagé beaucoup de place pour la critique, parce que si on n'a pas ce qui est, on peut très difficilement critiquer. En même temps, la science occupe dans ce schéma une position très bizarre, parce que elle revendique à la fois le fait de dire ce qui est et le fait de pouvoir dire le lendemain que c'est différent. Et donc à la fois la confirmation et la critique. Mais une critique qui est interne au monde de la science. Donc si vous voulez, je réutilise beaucoup dans mon travail actuel le fameux article de Manoni, je sais bien, mais quand même. Qui vient d'être publié dans un numéro de revue. Il y a au fond, dans la science, deux discours. Un discours du littéral pour les gens ordinaires. Le prion, c'est un prion. On vous le dit, on peut vous le montrer. Puis un discours pour les hommes de science. Non, bien sûr, on sait bien que c'est construit. Au fond, les hommes de science sont tous là, tout rien. On sait bien que c'est construit, on sait bien que c'est nous, on sait bien que demain on pourra dire autre chose, si on a une autre expérience, si on a un autre dispositif. Qui d'ailleurs, à mon avis, pour moi, est le signe même de la domination. La domination, c'est ça, c'est avoir un discours du littéral pour les petits, pour les enfants, et un discours du « c'est vrai, mais d'une autre façon, c'est vrai en esprit, c'est vrai, mais on peut le changer » pour les initiés. Mais un problème qui, à mon avis, pourrait être exploré à travers une analyse de la science-fiction, de ce qui se produit. Moi, je le daterais, mais j'ai pas eu le temps de travailler encore, je le daterais de la bombe atomique. des changements de la science-fiction avec la bombe atomique. Qui est que la science qui était ce qui stabilisait, qui permettait de prévoir pour le meilleur ou pour le pire, comme dans Jules Verne, est devenue ce qui produit la métamorphose. Et donc maintenant, on va assister à une prolifération des métamorphoses à partir de ce que font la science et la technique. Des fourmis, mon fils, quand il était petit, il n'allait voir que des films comme ça, il adorait des fourmis géantes, des aliens. Par exemple, quand je travaillais sur l'engendrement et l'avortement, très souvent dans les propos, aliens revenaient, qui le monstre qui sort du ventre. Et donc, et tout cela est renforcé par le fait que que les sciences sociales ont repris au fond le même modèle et ont envahi le monde. Quand je prends ma radio le matin, comme je suis quelqu'un de sérieux et discipliné, je prends France Culture, où d'habitude j'entends un de mes confrères que je connais plus ou moins, au moins de nom, expliquer à des journalistes ce qu'il en est de ceci, de l'Iran, je ne sais pas quoi, du chômage, de Pierre Legrand, etc. Bon. Et donc, comme les sciences sociales qui se sont bloquées sur le discours des sciences ont le même, sont devenues, au lieu de que ce soit les institutions, également ce qui doit dire ce qui est, et ce qu'il en est de ce qui est, elles sont également aussi, d'ailleurs, affrontées à la métamorphose parce que leurs objets se modifient au fur et à mesure de ce qu'elles disent. Et donc, évidemment, cette situation rend très difficile aux hommes politiques de maintenir le schéma qui était si clair et si beau il y a 30 ans d'un responsable dont le rôle est simplement de connaître la nécessité, c'est-à-dire les forces de destruction, et de leur obéir en accomplissant les destructions nécessaires. Voilà. Je m'excuse si je vous ai pris un peu trop de votre temps.
Merci beaucoup. Reste.
Vous parlez un peu fort parce que je suis né avec un problème d'oreille.
Moi, je signalais peut-être j'aurais deux questions, deux champs de questions au moins à signaler, peut-être si même si on les traite pas complètement et pour laisser du temps à d'autres questions. Alors, la première chose, c'est d'abord avant mes deux questions, c'est une remarque parce que je pense aussi de plus en plus, moi c'est Hérodote que j'ai relu ou lu en fait vraiment récemment, et je me suis aperçu que Hérodote donnait une grande place, mais pas une place absolue dans son compte-rendu des activités des Grecs à la Pythie, au fait qu'elle est consultée, etc. Et la Pythie, finalement, elle parle toujours de ce qu'il peut y avoir comme si c'était inscrit dans l'ordre d'une nécessité. Et je pense parfois, en écoutant, puisque vous venez d'en parler, la radio, et particulièrement le matin, que en fait, nous avons aujourd'hui effectivement beaucoup à faire à quelque chose qui est de ce type-là, puisque les informations qui nous sont diffusées sont pour beaucoup finalement des prophéties. On ne parle pas de ce qu'il y a, mais on parle de ce qu'il pourrait y avoir, enfin quelque chose de ce type-là. Donc je trouve ces éléments d'une certaine actualité. Mais en fait, les deux thèmes sur lesquels je voudrais suggérer enfin une discussion, une réflexion, je sais pas, je vais essayer de le dire assez rapidement, pour une question un peu brutalement énoncée, ça serait qu'est-ce que vous pensez, enfin qu'est-ce que vous pouvez nous dire du management et comment on pourrait traduire ce mot-là, manager, enfin je sais pas comment le dire, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une parce que vous donnez une grande place dans la fin de votre exposé sur il faut qu'on parvienne à s'entendre sur ce qui est finalement, hein, ou le social, ou les institutions comme modalité pour s'entendre sur ce qui est. Mais est-ce qu'il n'y a pas des conduites d'installation, je ne sais pas comment dire ça, hein, des conduites d'installation du monde qui est, qui sont bien des conduites, donc qui impliquent des artifices, qui impliquent des techniques, des choses comme ça, et qui se ménagent. Alors, c'est peut-être pas le management, comme on le dit de façon très courante, mais peut-être il y aurait, à discuter, à travailler autour de ce terme-là. Enfin, je pense évidemment que vos travaux ne vous laissent pas silencieux sur ce genre de questions. Donc, est-ce qu'il y a une traduction possible du management qui pourrait nous intéresser, nous les humains, qui en tant que nous ne sommes pas complètement pris par le jeu des institutions. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une conduite du monde qui est une conduite qui aussi, par conséquent, a affaire au devenir et pas simplement à ce qui est. Enfin bref, il me semble quelque chose qui disparaît dans votre propos, qui est de cet ordre-là, qui est la valeur du devenir. Est-ce que nous n'avons pas aussi à nous entendre sur les possibles et à ménager des voies plutôt que d'autres pour arriver à tel possible plutôt qu'à tel autre, et donc l'enjeu n'est pas simplement de s'entendre sur ce qui est, mais de mettre en jeu quelque chose qui a lieu au possible. Voilà, ça serait un premier champ de question.
Oui. Oui, sur les piti ou les sibylles,
c'était 9 si je ne me trompe. Je ne sais pas si vous avez lu leur texte. Moi, je les aime beaucoup, c'est très très beau. J'en ai utilisé, mais dans mon travail de poésie. Mais, comment dirais-je, l'interprétation n'est pas évidente. Donc là, on est dans un autre domaine, qui est le domaine de la divination. Et donc, Dans la divination, vous avez une volonté, évidemment, à déchiffrer, mais qui est une volonté de Dieu, des dieux, et qui est extrêmement opaque. Donc c'est pas une force, c'est quelque chose qui est, il me semble. Ça a été publié, il y a des extraits, notamment de la Delphique, qui ont été publiés dans cette magnifique collection à l'aide de poésie à la différence. Mais si vous voulez, on donnerait ça à Ségolène Royal, elle aurait du mal. Alors, ce que je pense du management, je pense, si vous voulez, que c'est compliqué sur le management, parce que j'en ai pas mal lu, j'ai dû lire environ 200 livres de management, quand je connais vos esprits, je peux vous assurer que c'est pas drôle. Hein. Mais le management, il fait exactement comme les gars que je citais tout à l'heure. Il dit qu'il faut vouloir le fatal, l'inévitable. Et donc, bien sûr, si vous voulez, qu'à côté de dire ce qui est, il y a dire, évidemment, ce qui va advenir. Mais le management fait la même chose. C'est-à-dire que le management, sa grande figure de rhétorique, c'est « on vous a dit que, mais maintenant, je vous dis que ». Parce que ce qu'on vous a dit était peut-être vrai avant, mais ce n'est plus vrai maintenant. Et donc, le management lui-même se présente, au fond, comme un simple interprète d'une extériorité qui s'incarne dans l'histoire des entreprises. Mais évidemment, il construit des dispositifs, et évidemment, la critique, pour le coup, va dire au management, ce que vous prétendez être ce qui est
n'est que le résultat de ce que vous avez performé. Bien sûr. Mais la question ne change pas quand on prend le management. Le management, dans mon avis, n'est en rien un moyen, c'est très efficace, je crois. Après avoir lu 200 livres, je veux dire que ce n'est absolument pas l'espèce de scepticisme méprisant à l'égard du management qu'ont beaucoup de mes collègues. Je pense qu'effectivement, ça fait des tas de choses. D'ailleurs, on le voit maintenant. Je pense qu'une des caractéristiques de la période que nous vivons, c'est l'entrée du management et des consultants dans la gestion des entreprises culturelles, universitaires, etc. Donc on voit et on va voir de plus en plus que ça ne fait pas rien. Mais le management dit qu'elle dit vouloir ce qu'il advient, ce qui va advenir. Donc le modèle est tout à fait le même. Et n'invoque que des extériorités. La Chine étant... Les extériorités peuvent évidemment s'incarner dans des grands démons, dans des grandes entités dont ils se sont saisis avant d'autres, qui ont su s'en saisir avant d'autres.
Mais ça aurait comme conséquence, ça serait un peu ma deuxième, c'est peut-être pas vraiment une question, enfin, ce serait plus un élément de discussion, ça a comme conséquence qu'il n'y a pas de parole. Il y a que c'est pour ça peut-être que la notion d'acteur revient si souvent, c'est-à-dire quel qu'il soit le management ou la décision politique revient à invoquer des extériorités, d'une certaine manière ça veut dire que c'est écrit d'avance ou que c'est écrit ailleurs, que ça ne joue pas dans ce qu'on dit, et qu'effectivement nous sommes tous des acteurs, mais alors des acteurs qui n'ont pas par définition qui n'ont qu'à dire le texte ou à jouer le rôle, mais qui n'écrivent pas leur propre parole.
Non, je crois, si vous voulez, que le schéma au fond qui est derrière ça, c'est un schéma qui est cette extériorité. Je n'en serais pas la chose si je la fais. Je n'en serais pas la chose si je me l'approprie. C'est au fond, c'est ce que je fais, c'est le dehors, c'est le grand dehors, c'est le monde extérieur qui le veut. Et Meillassous comprend l'expression de grand dehors, mais c'est le monde extérieur qui le veut. Mais en me l'appropriant et en visant le monde extérieur, je le fais être, et donc j'agis. Donc c'est pas du tout je suis. C'est celui qui est purement joué. C'est le pauvre mec qui n'a pas compris, qui s'accroche dans les années 70, à ses radis sans engrais, ou aujourd'hui d'ailleurs qui s'accrocherait à ses vaches productives nourries au super engrais, peu importe. C'est celui qui n'a pas compris la volonté extérieure suffisamment pour faire corps avec elle. Alors, évidemment, comment vous dire, comme vous pouvez imaginer, je n'adopte pas du tout cette vision des choses. Je crois notamment, parce que une chose qui est importante à dire, il me semble, c'est que ce sont des visions très proches qui ont animé ce qu'on a appelé en France la gauche et la droite. Simplement, au fond, c'était le choix des forces qui changeait, ou l'interprétation qu'on en donnait, et encore. Et donc, je pense, si vous voulez, que si on voulait relancer un projet de libération, quand même, je trouve, une émancipation, une idée qui n'est pas absurde à explorer, il faudrait peut-être repartir
tout à fait différemment, notamment repartir sur cette contradiction que l'institution est absolument que l'être qui dit ce qu'il en est de ce qui est absolument nécessaire, mais qui n'existe pas, qui est une fiction. Et que cela ne peut pas être un savoir d'initié, mais un savoir qui doit être celui de tous. Ce qui serait quand même tout à fait. Mais sinon, au fond, entre le Parti communiste, ou même Giscard, dans les Pompidou, puisqu'on veut dire Pompidou, on est là pour le centre, dans les années 70, il n'y a pas un écart énorme. Tout ce rapport. Excusez-moi, je voulais dire quelque chose.
Quelqu'un voulait parler ?
Oui.
Oui, je voulais
peut-être.
Ça serait aussi léger. Donc. Oui, oui. Il y a tout un tas de questions qui m'est venue à l'esprit en partant de votre réflexion sur ce que vous appelez la tâche qu'on a déléguée sur la science, d'établir ce qui est et de le stabiliser, et comment ça difficulte le travail de la critique. Donc, et ça en particulier par rapport au management. Je partage un peu la fascination pour qu'est-ce que le management en sens théorique, c'est-à-dire tel que vous l'avez défini, le management suit une forme, si on peut appeler ça une forme, ou un protocole théorique qui se rapproche de celui de la science, c'est-à-dire on est constamment en train de se auto-réfuter et d'actualiser un savoir. Et étant donné que c'est une bureaucratie qui le produit, d'ailleurs, ça m'intéresse aussi quel genre de théoricien s'occupe de formuler, d'établir ce traité de management. Étant donné que c'est une bureaucratie qui le fait, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous classez ces gens-là dans tout un ensemble des dispositifs d'entreprise. Donc, ça serait une partie de la question. Comment est-ce qu'on peut encadrer le management et la production de théories du management, comment est-ce qu'on peut encadrer ça dans l'entreprise? Et la deuxième partie serait, est-ce que cette forme que vous avez établie par rapport au modèle scientifique et que la production de théories du management reprend, est-ce que cette forme-là est la forme du théorique moderne, de la théorie dans nos temps? Est-ce que cette forme, c'est-à-dire vous avez dit qu'il y a des formules qui se répètent constamment qui représentent vraiment un protocole théorique, c'est-à-dire
vouloir la nécessité.
Vous avez parlé en particulier de figures, par exemple les grandes figures du management. On vous a dit que, mais maintenant je vous dis que c'était vrai avant mais plus maintenant. Donc ce genre de figures qui font un protocole et qui font vraiment une politique de la production de théorie, quelque chose qui est une forme qui fait l'objet d'un consensus, etc. Donc est-ce que cela vous l'élargirez à tout ce qui est tentative de dire ce qui est à partir de l'institution sous le modèle du scientifique, et comment est-ce que la critique s'inscrirait face à ça, ou dans le vide que cela produit, ou dans le vide qui entoure cela? Je ne sais pas si c'est un peu confus, mais la question m'est venue tout d'un coup en bloc.
Alors si vous voulez, le le management, si vous voulez, il y a un point très important, c'est que il prend appui sur une méthodologie propre qui est le profit. Ça n'a aucun sens de penser le management sans profit. L'essentiel du management, c'est le profit. Et le profit, c'est, comme chacun sait, des lignes de chiffres sur un écran d'ordinateur. Max Weber l'a montré avant les ordinateurs, c'est pas pas pour utiliser, pas pour avoir des belles choses. C'est une donnée comptable. Donc, si vous voulez, la comptabilité, moi je regrette beaucoup, maintenant je suis trop vieux pour investir là-dedans. Il y a Schiapello qui a une formation de comptable, de comptabilité analytique, puisqu'il a fait HEC, fait maintenant un travail magnifique de sociologie de la comptabilité. C'est certainement quelque chose d'absolument essentiel, y compris d'ailleurs pour comprendre l'économie, qui est largement retraduit en d'autres termes, sans les analyser, des choses apportées par la dimension comptable. Et donc, si vous voulez, le management a sa boussole qui est le profit. Donc, évidemment, le profit, c'est ce que lui montrent la métrologie dont il dispose. Quand le profit baisse, c'est que le cours de l'histoire change. Et à ce moment-là, il faut réinterpréter le cours de l'histoire. Alors, à partir de là, si vous voulez, il y a au fond, effectivement, la comparaison avec la science n'a rien d'outré. Il y a un mélange assez bizarre. D'une science très appliquée, on va dire, un mélange assez bizarre de constatations, un peu comme Darwin quand il allait chez les éleveurs, de constatations qu'on tire de l'expérience des chefs d'entreprise, de choses empruntées à ce qu'on comprend des sciences sociales du moment, de décès. Par exemple, dans les années 70, il y a eu un nombre considérable, à partir de 75, de petites innovations faites au coup par coup dans les entreprises sous l'influence spécialement du centre des jeunes dirigeants, dont la synthèse a été faite 5 ans plus tard. On a dit, voilà, le sens de ces différents changements, voilà ce qu'il est. Et évidemment, ça performe en même temps le monde que ça interprète. Alors, si vous voulez, par rapport à l'institution, je pense que c'est un problème de savoir si le management, le monde de l'entreprise, etc., qui exerce des fonctions d'organisation, c'est-à-dire de coordination. Le rôle quand même du management, c'est d'assurer des fonctions de coordination. Est-ce que ils peuvent mettre en place des institutions ou est-ce qu'ils doivent aller chercher des éléments dans des institutions existantes? Moi, je doute fort que pour l'instant, quelque chose comme le management ait une fonction d'institution. C'est pas son but. Son but, c'est de modifier des coordinations en fonction de ce qu'indique la métrologie du profit. Mais en prenant appui sur des, ou en tout cas, on va dire en légitimant, pour aller vite, en légitimant ce qu'elle affirme à partir d'institutions extérieures. Alors est-ce que la science est une institution? Ça, je ne sais pas, il faudrait que j'en parle un jour. J'en ai parlé un peu avec Pestre. C'est vraiment un problème compliqué. Si c'est une institution, c'est une institution bizarre. Certainement infiniment plus, comment dire, dont le pouvoir abusif de domination est incomparable avec celui d'aucune autre institution à laquelle je puisse penser. La pire des tyrannies n'a rien à voir. Parce que, précisément, toutes les fonctions sont réunies entre les mêmes mains.
Moi, j'aurais des choses à dire aussi.
Avant de rentrer dans mon propos, j'avais juste une petite question, mais je suis pas obligé d'y répondre. Il y a une chose que j'ai pas bien comprise. Vous avez dit, si j'ai bien noté, les années 70, les discours que vous avez analysés, de modernisateurs, comme vous les avez appelés, sont des réponses à 68 et des façons de contrer la critique sociale. Et là, aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous parliez de contrer la critique artiste. Alors ça, j'aurais besoin
j'en
que...
J'en ai pas parlé.
Ouais, j'aurais besoin que... un petit éclaircissement sur ce point.
Parce que, mais parce que je n'en ai pas parlé, je dis en passant, parce que je n'ai pas vraiment travaillé dessus, c'est des impressions d'humeur, on va dire. C'est que le sentiment que j'ai, si vous voulez, c'est que la réponse des, on va dire, pour dire vite, des responsables de la bonne marche du capitalisme à 68, ça a été d'abord celle d'une partie des gens dont j'ai lu les textes là, notamment Delors au début des années 70, d'achever la construction de l'État-providence, juste avant qu'on considère qu'il ne tenait plus. Donc d'accroître la sécurité des travailleurs, de salariser, etc. Et de s'opposer, disons, à la dimension marxiste-ségétiste de la critique sociale, en proposant un capitalisme social. Et de s'opposer, évidemment, franchement à la critique artiste, mais d'avoir comme adversaire la critique sociale de mai 68 dans sa forme marxiste, pour proposer mieux. Et puis, dans les années, une chose qu'a compris Giscard, à mon avis, qui est un homme pour qui j'ai une grande admiration, sinon sympathie, ça a été que de répondre à la critique sociale par du social coûtait très cher. De toute façon, ça n'arrêtait pas les grèves ni la mauvaise productivité, et qu'on allait essayer autre chose, et qu'on allait suivre la voie autonomie, créativité, etc. Et donc, si vous voulez, dans les années 80, il y a une réussite. Il y a une internalisation de thématiques de la critique artiste et qui est faite par des gens qui viennent de 68. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'il y a une première mort de 68.
Dans le nouvel esprit capitaliste.
Voilà, il y a une première mort de 68 après 78, qui est une année charnière, mais qui est une mort de 68 faite par des 68ards. Alors, je suis tout à fait d'accord avec, et de plus en plus d'accord avec l'argument. Peut-être que, très probablement, cette internalisation de la critique artiste a été un échec. Parce qu'évidemment, si vous voulez, le problème, c'est que le capitalisme peut tout digérer, mais toujours en l'accrochant à une comptabilité et à une exigence de profit. Je vais vous donner quand même, la critique artiste, ça a voulu dire puiser, ranimer le désir en puisant dans ce qu'on a appelé des gisements d'authenticité. Mais dès qu'on les réincorpore dans le capitalisme, ils perdent leur authenticité. Je vous donne de raconter une blague. Quand on écrivait Le Nouvel Esprit avec Ève, on allait souvent déjeuner dans le dernier restaurant d'allure un peu traditionnel du quartier, qui s'appelle le Petit Babylone, qui est près du Bon Marché. Et qui a des tables avec des nappes à carreaux, un peu sales, des murs un peu usés. Bon. Et on se demandait, parce qu'on continuait à travailler en mangeant, si on voulait en faire une chaîne, qui est toujours plein, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on ferait? Il faudrait le coder, évidemment, le coder pour le transporter. Puisque l'équivalent de la comptabilité, c'est le codage. Qu'est-ce qu'on pourrait coder? Alors, les nappes à carreaux rouge et blanc, même un peu usé, on peut user artificiellement, facile. Les murs un peu sales, c'est plus difficile. À un moment, à un endroit, il y avait une espèce de planche sur laquelle étaient posées des assiettes avec un tuyau de poêle qui passait au milieu. On se demandait, est-ce qu'il faudrait transporter ça aussi? Et puis, les serveuses appelaient la patronne maman. Est-ce qu'il faudrait obliger les serveuses à appeler
la patronne maman, ou est-ce qu'on n'aurait pas des ennuis avec les syndicats, en les obligeant à faire ça. Et puis, évidemment, la clientèle, on ne peut pas la transporter. Et donc, si vous voulez, c'est quand même un grave problème. Moi, j'ai découvert les hippopotamus il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais à acheter des trucs dans une grande surface. J'étais ravi la première fois. Il y avait une serveuse, vachement sympa, qui arrive, qui me voulait, je voulais encore des frites. Est-ce que la sauce... Je me suis dit, vraiment, on est bien, on ne se fait pas engueuler, on ne sait pas la Véronée du coin. Puis la seconde fois, elle-même est arrivée avec le même sourire. Est-ce que vous voulez encore des frites? Puis, comme j'avais lu Horschild sur la formation des hôtesses de l'air, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment moi qu'elle aime, ou est-ce que c'est pas simplement qu'on lui a appris à me reproposer des frites? Et donc, évidemment, ça ne marche pas très bien. Et ça relance... Ça ne peut relancer le capitalisme qu'au prix d'un changement continu, sans arrêt, des nouveaux jouets, des nouveaux iPods, des tout ce qu'on veut. Mais je trouve que ce qui est sensible actuellement, dans l'atmosphère électorale, si vous me permettez, c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau, qui est très vichiste, qui fait penser à Vichy. Qui était, dont le discours était, voilà, on avait eu un lupanar pendant 20 ans, voilà ce qui est arrivé, et maintenant, on va retrouver, grâce à l'austérité. Donc maintenant, le discours, quoi, qui est assez général, y compris dans la gauche institutionnelle, on va dire, c'est on siffle la récréation. Si on prend, si vous voulez, je pense que quelque chose comme la collection, justement, qui a lancé Rosan Vallon, La République des idées, est très intéressant parce que, au fond, l'ambition est d'être le Giddens de Ségolène Royal, de toute façon. Bon, et puis, il était dans un autre lobby, il était dans le lobby Strauss-Kahn, mais comme tout le monde, il s'est réagi sur Ségolène. Et c'est donc le marché régulé par l'État, plus l'économie solidaire et la charité, post-rocardien, mais 168, c'est-à-dire sans l'autogestion, sans la libération, sans la créativité, etc. C'est maintenant, on est sérieux, tout ça, ça a déconné, bon, et on repart sur des basiques. Et c'est ça que j'ai voulu dire.
D'accord. Merci pour cette réponse. Moi, j'avais...
J'avais quelques petits trucs à dire, je vais prendre 5 ou 10 minutes. D'abord, je voudrais vous dire... que vouloir l'inévitable, c'est mon truc personnel. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire être un modernisateur, ça peut aussi vouloir dire être un tragique. Mais, enfin, moi j'appelle ça falloir le défaut. Hein, j'ai appelé ça il y a longtemps. Il faut le défaut, parce que l'inévitable ou la nécessité, c'est le défaut. Hein. Anarcher, c'est un défaut. D'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'il faut... alors, je dis pas vouloir le défaut, mais falloir le défaut. Il faut que le défaut faille. Qu'il faille le défaut. C'est pas forcément... Enfin, ça ouvre sur... C'est pas... Il n'y a pas qu'une issue à ça. Voilà ce que je voudrais dire. Ça peut évidemment être le discours de Alain Minc, qui est un personnage à qui je donne un statut important, un peu comme vous parliez de Giscard tout à l'heure. C'est un personnage que je n'aime pas du tout, mais pour qui j'ai une certaine admiration, un peu comme vous le disiez, Giscard. Pourquoi j'ai une certaine admiration pour lui? C'est parce qu'il a écrit avec Nora La formatisation de la société, qui est à mon avis un rapport lumineux. Parce que ça tient la route. Vous pouvez le relire aujourd'hui, 30 ans après. Ça tient vraiment la route. Et ça prouve qu'on peut avoir un discours qui permet de produire de l'intelligibilité sur l'avenir. Et qui n'est pas forcément un discours idéologique, de soumission. Il y a évidemment toute une pente très très idéologique dans ce rapport. Ça, c'est clair. Mais il y a au-delà de ce point idéologique, il y a beaucoup de choses. Et je me suis pas mal attaché, moi, parce que je voyais Lyotard à cette époque-là, il y a quelques dans les mois qui ont précédé, a rappelé combien Lyotard avait lu ce rapport quand il avait travaillé sur les immatériaux, etc., et combien ça l'a nourri dans sa réflexion sur la condition postmoderne, puis tout ce qu'il a développé autour des immatériaux. Bon. Quoi qu'il en soit, je voulais d'abord dire ça pour afficher la couleur. Moi, oui, je revendique ça. Mais je dis, ça ne conduit pas nécessairement. Alors, Minck, par exemple, en 77, c'est pas le discours de Minck aujourd'hui. Le discours de Minck aujourd'hui, ou plutôt il y a 5 ans, lorsque Minck a dit le marché, c'est comme le temps, il y a un orage, on n'y peut rien, ça c'est scandaleux pour moi. Il se trouve qu'à cette époque-là, j'ai répondu si, on y peut quelque chose, c'est-à-dire quand il pleut, on peut inventer le parapluie. Où on peut justement, avec la pluie, faire un canal et fabriquer un moulin, etc., etc. Donc, on n'est pas en train de subir. On peut, dans un langage qui est celui que j'affectionne le plus, je dirais, on peut s'individuer à partir de ça. Et donc, c'est pas nécessairement. Alors, ça, vous allez dire, mais c'est ce que j'appelle incarner l'extériorité. Effectivement, c'est une forme d'incarnation de l'extériorité. Ma première question, elle sera. Et ce n'est pas forcément pour une réponse immédiate, hein, mais ce que vous avez décrit sur l'extériorité, alors vous avez parlé pratiquement, on pourrait dire, d'abord de la transcendance, c'est-à-dire on pourrait appeler ça le grand tiers, le grand autre, Dieu qui n'est pas encore mort, y compris chez Descartes, où Descartes est déjà moderne, mais Dieu n'est pas mort pour Descartes. Bon. Et puis après, vous avez décrit des figures. On pourrait dire le progrès, par exemple, avec toutes ces figures très diverses, les différentes idéologies du progrès, différents récits, Lyotard aurait dit, les différents récits ou grands récits sur l'extériorité. La différence qu'il y a entre ces discours sur l'extériorité et le discours du management sur l'extériorité, c'est que lui, il ne considère pas ça comme un absolu, ni comme une transcendance, mais un ailleurs, un avenir. Non, il dit c'est le devenir. Et ce devenir, nous sommes plaqués dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, je dirais, entre le devenir et l'avenir. Ce midi, avec Florent Lahage qui est ici, on a eu une discussion, et Pierre-Damien Huyck, sur l'émancipation. Bon. Et vous avez employé le mot de libération tout à l'heure et aussi d'émancipation. Et j'ai dit à Florent, moi je crois à la nécessité de réaffirmer un discours de l'émancipation et de la libération. Le problème c'est, quel est ce discours? Et je crois par contre que pour les questions qu'on veut adresser dans le monde entier aujourd'hui par rapport à la modernité et à la modernisation, je ne voudrais pas, moi, exporter un discours classique de l'émancipation. Parce que le problème, c'est d'inventer une autre émancipation. C'est pas de revenir à un discours, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Bon. Alors, j'étais très content de ce que vous avez dit tout à l'heure de la critique artiste, etc., parce que on en a un tout petit peu parlé ce matin au téléphone, donc je le sais que vous le savez. Moi, je suis très, très attentif à cette question. Ma thèse, parce que je défends une thèse aujourd'hui, je suis dans une bagarre pour défendre un point de vue, qui est un point de vue politique, plus que théorique, politique, qui est, ce qu'il faut sauver, c'est le désir. Et il se trouve que vouloir le défaut, ça peut être vouloir la singularité que je peux produire dans le défaut, dans la nécessité, à partir de quoi je vais engendrer de l'individuation. Je vais m'individuer. Mais non pas pour produire de la profitabilité, ce qui est le problème du management, mais pour produire de la différence. Derrida aurait dit avec un A, ou Deleuze aurait dit dans la répétition. C'est-à-dire, parce que la nécessité, c'est la répétition chez Deleuze. Hein. La répétition, c'est la nécessité. C'est la même chose pour moi. Et là, c'est là que je précise ma question. Sur les extériorités, il y a des typologies d'extériorité. Et je crois qu'aujourd'hui, et grosso modo depuis les années 70, c'est là que Pompidou est très intéressant. Pompidou ne se satisfait pas du marché. Ce geste-là n'est pas un geste adressé au marché. C'est clair qu'il affirme que la modernité, ça ne se réduit pas au marché. Là où je n'aime pas Giscard, c'est que lui va dire, si, il n'y a que le marché. Alors c'est vrai que c'est un grand modernisateur de ce point de vue-là, mais il va donner un nouveau sens au mot modernisation et modernité. Et
Alors, je dis pas que c'est lui, mais il est le moment des années 70 où tout à coup, on va basculer peut-être dans ce qui va être commencer à être finalement l'abandon d'un projet de la modernité. Parce que moi, je crois que le projet de la modernité, c'est un projet du désir, justement. Ici même, il y a un mois ou deux, j'ai parlé de la Russie, dont je revenais à ce moment-là, que je connais assez bien parce que j'ai enseigné plusieurs années. Et j'en ai parlé parce que, en revenant de Russie, j'étais extrêmement... D'ailleurs, ces questions que je vais poser là, elles sont venues de mon voyage en Russie. J'ai été extrêmement frappé du devenir mafia du capitalisme en Russie. Ça, c'est un cliché, tout le monde le sait maintenant. Mais de voir un capitalisme sans bourgeoisie.
Sans
bourgeoisie. Et donc un capitalisme pour lequel il n'y a plus que le marché. Nous... Vous comme moi, nous avons combattu le capitalisme qu'à l'époque nous appelions la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie ne disait jamais qu'elle travaillait pour le marché. Elle disait qu'elle travaillait pour Dieu, pour la propriété sacrée, pour tout ce qu'on veut, mais pas du tout pour le marché. Weber dit, en fait, elle travaillait pour la calculabilité, la rationalisation, etc., mais elle-même ne le savait pas forcément. Elle pensait travailler pour autre chose. Et c'est Weber qui le dit, justement. Travailler pour, par exemple, pour le protestantisme. Ça, dans les années 70, ça a basculé. Donc ma question, elle serait là, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ça serait peut-être précisément l'apparition d'un phénomène de modernisation sans cette modernité-là. Sans cette modernité qui affirme qu'il y a quelque chose qui ne se réduit pas à la calculabilité, qui ne se réduit pas, et ce que j'appelais tout à l'heure dans mon introduction, le projet. Et ici... Je voudrais ajouter, et puis je m'arrêterai là pour qu'on ait le temps, pour pas abuser de votre patience, mais que tout ce que vous avez pu dire sur critique et modernité m'intéresse énormément, et c'est aussi sur les institutions. Moi, je crois en effet que la modernité, et je le crois depuis que je vous ai entendu là, ça m'est apparu comme un truc qu'il faut mettre au pot des questions, là, a une dimension intrinsèquement critique. Vous-même, vous avez parlé du capitalisme comme une capacité à absorber la critique. Mais en même temps, ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'était une espèce de fonctionnement acritique. C'est-à-dire d'un processus de confirmation qui fait l'économie de la critique. Alors, et par ailleurs, on vous a posé une question sur management et théorie. Il y a une semaine, on a fait ici aussi un séminaire, non pas sur modernité et modernisation, mais sur les nanotechnologies, les nanosciences. Il y a toute une discussion avec un physicien tout à fait étonnant, d'ailleurs, sur le statut de la théorie dans les nanosciences. Et Xavier Guchet, qui est un épistémologue de Nanterre, disait « Aujourd'hui, dans les nanosciences et les nanotechnologies, on dit qu'on n'a plus besoin de théorie, qu'on se passe de théorie. Par contre, on utilise des modèles. C'est une évolution managériale de la science. C'est-à-dire que c'est pas le management qui intériorise la science, c'est la science qui intériorise le management. Pourquoi ? À cause du microscope à effet tunnel. Parce que le microscope à effet tunnel, qui au départ est un outil d'analyse et donc de critique, par accident se révèle être un outil de manipulation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on peut manipuler les atomes, et qu'en manipulant les atomes, on peut finalement, en quelque sorte, performer la matière. Et finalement, on va manager la matière. Donc les nanosciences, c'est du management de la matière. C'est plus le management des hommes, c'est le management des atomes. Et là, ce qui disparaît, c'est la théorie comme critique, à quoi on substitue le modèle comme efficience, c'est-à-dire comme performance. Ici, je m'arrêterai là, je voudrais dire ceci. Et pour revenir à ma première question, c'est-à-dire par rapport à l'extériorité. L'extériorité de Descartes, qui renvoie à Dieu, comme vous le savez, à ce que Derrida va appeler le signifié transcendantal, c'est une extériorité de l'être. C'est-à-dire que Descartes, pour lui, dans tous les cas, le maître et possesseur de la nature ne peut maîtriser et posséder la nature que pour autant qu'il en dit l'ontologie comme mathesis universalis. Donc c'est une pensée de l'ontologie. La pensée du progrès, qui apparaît au XIXe siècle, vous avez évoqué Marx, et donc Schiller est une espèce d'ouverture vers ça. C'est une pensée du devenir, c'est une découverte du fait que la science, c'est ce qui décrit non plus ce qui est, mais ce qui devient, c'est-à-dire les processus. Et c'est le fameux travail que Stengers a fait avec comment s'appelle-t-il, Prigogine, bon, sur les phénomènes de transformation, etc. Bon, c'est-à-dire une physique de la thermodynamique, une science de la thermodynamique, donc qui intègre le temps et l'irréversibilité. Et ça, ce qui s'est fait dans le domaine de la physique au XIXe siècle, ça s'est fait dans le domaine du management au XXe siècle. Le management a intériorisé ça. Mais je crois que nous, notre question, c'est de poser que aujourd'hui, on est... Alors, pour poursuivre ce que je disais, on est dans une science du devenir. C'est une science qui, sans complexe, ne renvoie plus à un être. Il n'y a plus d'être. Bon. Ça devient... Et du coup, la science elle-même devient une technoscience. C'est-à-dire que c'est une science industrielle. C'est plus du tout une science théorique, pour le coup. C'est une science qui transforme, donc qui doit produire de l'efficacité. Et c'est ce qui va se concrétiser avec la révolution industrielle, grosso modo. Je crois que nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la question de distinguer de l'être et du devenir de l'avenir. C'est-à-dire du désir. Je ne dis pas du tout ça pour faire un jeu avec désir d'avenir, etc. Parce que vraiment, il se trouve que ça m'a énervé un maximum de voir cette expression. Bon. Mais je crois qu'en effet, la question qui se pose à nous aujourd'hui, au niveau mondial, alors là, pour le coup, parce que moi j'ai essayé de montrer récemment dans un ouvrage que ces questions de crise du désir sont absolument mondiales. C'est pas du tout simplement en Occident. Je l'ai montré au Japon parce que j'ai des relations avec le Japon en travaillant alors là sur la pathologie japonaise, les otaku, les kikomori, c'est 1 million de jeunes qui sont exposés à ça. Bon. Mais j'ai essayé de montrer aussi sur des enquêtes sociales qui ont été faites par l'État chinois sur des phénomènes de dépression, etc. Bon. C'est mondial. Et j'ai reçu il y a trois mois ici un homme qui s'appelle John Russell qui est un Afrikaner. Qui m'a expliqué qu'en Afrique du Sud, ça y est, c'est aussi en train de se mettre en place, alors avec des aspects... Et donc, je ne vous cache pas que, pour moi, ce qui m'intéresse dans cette question de la modernité et la modernisation dans ce colloque, c'est d'essayer de faire avancer cette hypothèse qui est la mienne, qui est que la vraie question maintenant là-dedans, c'est le désir. Et c'est pas simplement la motivation en tant qu'est un objet de technique qu'on peut manager, on peut manager la motivation. Mais le désir, ça ne se manage pas. Par contre, on peut élaborer des politiques de désir. Voilà, ça c'était les réactions que je voulais évoquer et pour recueillir votre sentiment sur tout ça. Sachant qu'il est tard, bien sûr.
Vous avez, sur le capitalisme sans bourgeoisie, c'est juste une note. François Furet, dans l'introduction au passé d'une illusion, utilise ce thème pour distinguer l'Amérique, les États-Unis de l'Europe, déjà. Sur le rapport du capitalisme et de la bourgeoisie, le problème, si vous voulez, c'est un vrai problème, c'est que il y a un livre que j'aime beaucoup de Marshall Berman qui s'appelle All That Solid Melts Into Air, qui reprend une phrase du manifeste communiste. Et effectivement, c'est cette pauvre bourgeoisie qui n'aime que les confitures de grand-mère, le bistrot à l'ancienne, les jeunes filles pures, etc., détruit sans arrêt, qui fait son bonheur. Sur ce qui devient, parce qu'il me semblait, moi je connais très mal la science, hein, j'ai un peu honte d'en parler parce que j'ai jamais travaillé en sociologie des sciences, mais il me semblait, si vous voulez, que le passage de la métamorphose à la science, qui était la mutation, c'est évidemment le changement selon des lois, ou même la mutation, c'est-à-dire des formes de d'événements dont on va pouvoir dire ce qu'ils sont, ce qui les précède, ce qui les cause, les effets qu'ils auront. C'est quand même très très différent de la métamorphose. Alors, si vous voulez, pour le... Sur la question de l'épuisement du désir, comment vous dire, c'est votre thème, et donc il faudrait le travailler plus pour pas dire des choses trop grossières. Je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est tout à fait vrai. Mais c'est un thème qui me fait peur, parce que je pense qu'une des possibilités, c'est de relancer le désir par la guerre. J'ai très peur, si vous voulez, parce que là je quitte le sociologue professionnel, ce que je fais depuis un certain temps, mais j'ai très peur du retour de la guerre. Et je pense qu'une des façons dont le désir s'est éteint, a été quand même la fin de l'histoire. Je pense que quelqu'un comme Fukuyama est à la fois pas du tout intéressant, en même temps il repère des trucs. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie de relancer l'histoire. Je pense par exemple que le négationnisme par rapport à la Shoah gagnera. Il a déjà gagné une grande partie du Sud, et je pense qu'il gagnera également l'Europe sous des formes aménagées. Parce que la Shoah a été associée après le 75, après les nouveaux philosophes, etc., au fond, la Shoah est rentrée dans l'idéologie, même dans la pensée, quand le monde soviétique, quand il est devenu impossible de fermer les yeux sur ce qu'était le monde soviétique. Donc c'est le goulag qui a fait venir la Shoah, parce que j'aime beaucoup le livre de Chaumont, La concurrence des victimes, il montre bien que jusqu'aux années 60, Il n'y a pas de Shoah, il n'y a pas de déportés, il y a des résistants, il y a des méchants allemands, il y a l'impérialisme, dernier stade du capitalisme. Et à ce moment-là, après 75, ça rentre dans une espèce de configuration social-démocrate qui va quand même dire, attention, si vous bougez, voilà ce qui attend, voilà ce qui vous attend. Si vous bougez le petit doigt, ça sera la Shoah, ça sera le goulag, etc. Et qui est donc a été utilisé comme fin de l'histoire. Il y a des tas de gens qui ont envie de relancer l'histoire parce qu'ils ont envie de relancer leur désir. J'ai dans mon séminaire est venu il y a 15 jours, 3 semaines, un gars très astucieux qui s'appelle Jérôme Truc, et qui fait un travail empirique très beau sur Atiocha à Madrid. Pendant des 3 mois après l'attentat, des gens amenaient des fleurs et avaient transformé le hall en lieu de commémoration, de prière, écrivaient des choses. Ça devenait insupportable pour le personnel, et la direction des chemins de fer a eu l'idée astucieuse de construire un mémorial très intéressant, parce que c'est lié à un dispositif informatique. Donc on commence par scanner sa main. Donc la main donne un effet de la singularité de la personne, mais comme il n'y a plus les lignes, il y a juste le contour, c'est un effet très limité. Et puis on est invité à taper un message. Il y a un logiciel qui sélectionne à partir de mots-clés les messages qui ne conviendraient pas, du genre tuer les tous, etc. Des messages passent en écran échantillonné au hasard, passent au-dessus, et par ailleurs, c'est pas évidemment des messages, il y a un stock de messages, et puis il y a un site internet où c'est envoyé. Donc les messages en gros qui viennent, c'est on pense à vous, vous êtes toujours là, etc. Alors, par contre, malgré tout, une fois par an, lors de l'anniversaire, les familles reviennent, ils remettent des fleurs, ils remettent des messages du genre « on aura leur peau », etc., mais écrits à la main. Et évidemment, le sens du dispositif, c'est l'attentat est comme un tsunami. C'est une catastrophe naturelle parmi d'autres. Ce qui veut dire on n'a pas d'ennemis. Ce qui veut dire il n'y a pas d'histoire. Et on ne veut pas d'histoire. Alors, ça, je trouve que c'est, pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, je trouve qu'effectivement, le vrai problème actuel, c'est pour ça que je pense qu'il faut lutter contre le capitalisme, parce que c'est le capitalisme qui tue le désir, sur lequel il repose. Parce que l'autre façon de relancer le désir, c'est le meurtre.
Oui. En même temps, de toute façon, le désir revient nécessairement.
Enfin, moi, ça, oui. C'est ma thèse. Oui. Dans tous les cas, il revient. Donc, ou bien on fait qu'il vienne en le désirant.
Oui.
Et à ce moment-là, il peut devenir une force sociale. Ou bien, dans tous les cas, il revient. Et à ce moment-là, il devient comme asocialité pure. Absolument. Mais c'est l'inévitable du désir. Et justement, c'est une. J'ai pas commandé parce qu'il y avait plein de notes que j'ai prises, j'ai pas mentionné, mais quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a ce qui n'existe pas et qui est commun à tous, bon, bah, c'est typique. Le désir, c'est ce qui n'existe pas. C'est pas une extériorité qui renvoie à des molécules, à Dieu ou je sais pas quoi, c'est ce qui n'existe pas. L'objet du désir, c'est par structure celui qui n'existe pas, qui est une fiction. Et qui se revendique comme tel, qui se pense comme tel, et que ça ne lui pose aucun problème, et qui est commun à tous. Donc, mais effectivement, c'est une.
Vouloir l'inévitable autour du désir. Non.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Il est bientôt tard. Pour une autre fois, j'aimerais bien vous entendre revenir sur le danger qu'il y aurait à confondre une institution avec une organisation.
A priori, en me posant la question, je dirais qu'une institution, c'est une forme d'organisation comme une autre. Mais apparemment, il y a quelque chose là que cette ligne de pensée-là ne saisit pas.
D'incertitude radicale sur ce qui est, j'appelle institution ce qui donne un minimum de sécurité sémantique. Ce qui n'est pas inutile. Par exemple, si vous voulez, je pense que c'est la différence entre sécurité et protection. J'ai une autre étudiante, quand j'apprends qu'avec mes étudiants, plus que je leur apprends, les pauvres. J'ai une autre étudiante qui est colombienne et qui fait un travail magnifique en terrain sur la vie dans des zones tenues par les paramilitaires. On est protégé, mais du jour au lendemain, on est un humain, du jour au lendemain, on est un chien. On est rien. On est. Et donc, si vous voulez, l'institution assure une relative adéquation du langage et assure le contrôle de la référence, on va dire, assure et du monde. Ce que j'appelle organisation, ça concerne la coordination, notamment la coordination dans le domaine de la production. C'est le fait que chacun de nous a pu expérimenter quand en vacances il veut partir pique-niquer avec, on va dire, plus de 3 personnes, déjà avec 3 c'est dur, que c'est extrêmement difficile de faire une action coordonnée à un grand nombre de gens. Et donc ça, c'est ce que savent faire Marc Kaharaki. Peut-être le marché, mais en tout cas certainement c'est le travail de l'organisation. de faire ça. Pas de dire ce qui est, juste de faire qu'on aille tous ensemble pique-niquer. Et puis, je trouve qu'il faut distinguer des administrations qui font une fonction de police. C'est-à-dire qu'elles sanctionnent, elles récompensent, elles mettent en prison celui qui prétend qu'il n'a pas mis sa voiture sur les clous parce que ce n'était pas des clous, mais une œuvre d'art postmoderne. On va dire minimaliste. Ces bandes là, c'est pas des clous, c'était d'ailleurs c'était près de Beaubourg, c'était un artiste minimaliste, donc il n'y a pas de raison. Alors l'institution va dire si, on va en discuter, si, c'était des clous. Aucun minimaliste ne s'est présenté pour. Et puis l'administration va lui foutre, lui mettre 100 euros d'amende. Donc c'est des fonctions. Alors bien sûr, évidemment, très souvent c'est joint. Le fait de faire une distinction analytique permet de voir des cas d'administration qui fonctionnent tout seuls, par exemple, sans du tout se référer à une institution, de voir que les organisations ont besoin régulièrement d'aller chercher des ressources dans des institutions, etc. Mais, si vous voulez, pour moi, ça ouvre un problème qui, pour moi, est très important. J'ai pas de réponse pour en parler, qui à mon avis est actuellement un des problèmes politiques très importants, c'est que quand on regarde les institutions, on trouve presque toujours des chaînes qui remontent à l'État. Soit à l'Église, on va dire, soit à l'Église, soit à l'école, soit à l'État. Il y a trois sources, il y a le savoir, la révélation et l'État. Et je trouve que si on dit cette fonction de sécurité sémantique est très importante, même si on sait qu'elle est fictionnelle, et il faut qu'on sache qu'elle est fictionnelle, est-ce que d'autres instances peuvent l'assurer que des instances d'État? Moi, je suis personnellement très peu étatiste, je veux dire. J'ai plutôt une sensibilité autonome, libertaire, et donc je pense qu'il serait très important de réfléchir, c'est pour ça que je pense qu'il faut distinguer les fonctions, parce que ça permettrait à mon avis de mieux comprendre qu'est-ce qu'on aime dans l'État, pas tellement qu'il fasse des autoroutes, certainement la sécurité sémantique, et est-ce que d'autres dispositifs pourraient assurer une sécurité sémantique
en dehors de la religion?
Quoi?
En dehors de la religion.
En dehors de la religion.
Oui, j'ai une question très rapide, vu l'heure, mais qui est liée au fait que je suis pas sociologue. Mais comment est-ce que, historiquement, une société sort d'une situation d'anomie? Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les éléments moteurs ou vecteurs qui font qu'on rentre et qu'on sort d'une situation d'anomie?
Déjà, si vous voulez, il faudrait être sûr qu'il existe quelque chose comme des situations d'anomie. C'est ça. Parce que, si vous voulez, je pour reprendre l'histoire des projets de libération, on va dire. Le projet durkheimien. Anomie, ça procède durkheimien. Donc le projet durkheimien, qui était dans lequel, pour Durkheim, la société, c'est l'État-nation. Avec des corps intermédiaires, avec un État qui a la conscience de la société, etc. Et qui était, et avec, évidemment, lui, au fond, il a une conception assez proche de celle de Freud, au moins dans certains textes. Moi, je ne vais pas m'avancer sur Freud parce que je le connais très superficiellement, mais du désir, qui est: les désirs des humains sont illimités, le désir illimité est destructeur. Donc il reprend au fond l'idée du rousseauiste de volonté générale pour construire la conscience collective, qui est ce qui va imposer un frein
au désir. C'est ça la base de la conception durkheimienne. Et l'institution chez lui, qui n'a jamais défini d'ailleurs, est ce dans quoi va s'incarner cette volonté, cette conscience collective qui va permettre de freiner le désir pour faire une société du même coup qui va tenir en dur, etc. Mais tout ça s'est effondré dans la guerre de 14. Il a cessé de s'effondrer depuis, il a perdu son fils, il est mort de chagrin. Le projet, donc ça c'était lié à, au fond on croit que l'institution existe, on croit que c'est vrai. Le projet critique qui est sans arrêt dénoncé, dévoilé de façon quasi paranoïaque, le corps de celui qui parle au nom de l'institution derrière la parole d'institution. C'est très nécessaire, c'est très plaisant, on l'a tous fait. Mais à soi seul, ça suffit pas. Parce qu'évidemment, c'est le problème de ce que dit Hacking sur la déconstruction, où il dit que le constructionnisme, pas la déconstruction derridienne, mais la déconstruction sociologique, que le constructionnisme, au fond, ne s'applique bien qu'à des choses dont on pense qu'on peut les changer pour construire une autre détermination. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut retravailler un projet de libération à partir de cette contradiction, à partir de cette tension. Et anomie, évidemment, n'a de sens que si on croit qu'il y a vraiment un ordre institutionnel qui permet de limiter les désirs. L'anomie est un moment où les désirs foutent le camp dans tous les sens. Mais il y a des moments de guerre civile, par exemple. Vous diriez guerre civile, comment on sort de la guerre civile? Je comprendrais mieux, c'est plus classique. Mais si vous voulez sortir de l'anomie, si vous êtes vraiment durkheimien à ce point-là, vous voulez des vraies institutions en dur qui vous disent vraiment qui vous êtes et ce qu'est vraiment un sociologue, un fonctionnaire, un délinquant. Moi, je veux bien, mais il en faut un peu. Mais disons, non, moi, je ne tiens pas à ce qu'il y a que ça.
En fait, ma question pointait, vous dites en gros, je suis d'accord avec Bernard sur le désir chute. Et j'ai peur qu'on veuille réinitier du désir de façon pulsionnelle, guerrière, etc. Mais quelle serait l'autre voie, au fond ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre ? Est-ce que...
Il n'y a pas que le désir de tuer. Ouais. Heureusement, il y a dans la vie d'autres désirs que le désir de tuer. Enfin, je sais pas, peut-être. Je ne veux pas m'immiscer dans votre libido, mais il peut y en avoir d'autres.
Mais là, c'est... Oui. Non. Peut-être j'ai mal posé la question, mais c'est simplement vous disiez je crains ça comme si c'était une.
Ah ben je crains ça, oui.
Voilà.
Oui.
Mais
c'est la façon. Je pense que la voie la plus courte de réouverture du désir, c'est quand même celle-là.
Mais qui est une forme de l'explosion pulsionnelle.
Comment ?
Qui est une forme d'explosion pulsionnelle.
Oui.
Sachant que pour moi, le désir est nomique, intrinsèquement. C'est-à-dire que, il y a vraiment quelques textes de Freud où c'est très très clairement dit, il n'y a pas de désir qui ne soit pas une sublimation. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il le dit, mais il y en a quelques-uns. Et à partir du moment où il dit ça, c'est le nomos qui constitue le désir, comme principe de liaison. Du coup, le problème, c'est une politique de la sublimation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je proposais de revenir sur la question de la motivation, parce que la motivation, c'est un certain nom de la sublimation. Tout ce que Weber, justement, a commencé à dire là-dessus, et que le bouquin de Luc Boltanski-F. Chiapello montre, en poursuivant avec l'analyse, effectivement, de tous ces bouquins de management, c'est qu'il y a une technicité de la motivation, sauf qu'à un moment donné, cette technicité devient une rationalisation qui détruit l'objet même qu'elle cherche à canaliser. Du coup, la question, c'est de rebâtir des modèles de sublimation, d'être capable d'aller au-delà du calcul. J'ai entendu ce matin, je ne sais pas si vous disiez que vous écoutiez France Culture, vous avez peut-être entendu ça comme ça, comme moi. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin. Il y a eu un reportage aux informations de 8h de France Culture sur un truc du Front National qui a eu lieu hier, autour de Le Pen.
Oui.
Et un cadre du Front National a dit, de toute façon, Heidegger disait qu'il fallait... il revendique Heidegger. Front National. Le type a dit, puisque je suis sur France Culture, je vais vous parler culture. On a un autre philosophe, il s'appelle Heidegger. Ah, ça fait froid dans le dos quand même. Hein? Ça veut dire qu'il se passe des choses en France. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs à ce coup, mais je crois qu'il y a le rapport avec. C'est à cause du calcul. C'est à cause du calcul, pardon.
La sublimation, parce qu'évidemment, c'est pas. Comment dire? Parce que si vous voulez, actuellement, je... Au fond, j'essaie de m'opposer à la fois à mes copains sociologie pragmatique ou philosophie post-Wittgensteinienne ou etc. qui se gargarisent sur la situation, l'interprétation, etc. Contre le tout critique que je trouve naïf, comment dire, cette espèce de joie naïve de il y avait eu, je m'insiste là-dessus, un interview de Bourdieu tout à fait à la fin de sa carrière et de sa vie dans Télérama. Très drôle, parce que c'était sur l'amour. Et alors il expliquait, oui, l'amour, c'est presque toujours intéressé inconsciemment. Mais il existe, dans des rares cas, de l'amour vrai. Faut choisir, soit il y en a jamais, soit il y en a toujours, mais il peut pas y en avoir juste. Qui prouve la difficulté de tenir quand même la position. Donc, ça, je pense que c'est pas tenable. Mais j'aime pas non plus beaucoup, j'appelle ça maintenant pour rigoler, le vaticano-chevènementiste. J'aime pas beaucoup le c'était mieux avant, le genre Supio, quoi, le genre Supio sur le droit. Il y a une grande altérité. Souvent, c'est les juristes qui sortent ça. Il faut se référer à une grande altérité, sinon tout fout le camp. C'est pas. Alors, évidemment, la sublimation, c'est pas ça. La sublimation. Parce que c'est souvent entendu aujourd'hui comme ça.
Bien sûr. C'est tout le problème. Enfin, c'est très difficile de parler ça. Et ça doit être entendu comme une contre-critique.
Comme
quelque chose contre la critique artiste, au sens
où oui.
Je pense que vous en parliez tout à l'heure.
Bien sûr.
On va peut-être s'arrêter parce qu'il est 8h30. Merci beaucoup. Hein.
Non, c'est
vraiment, merci bien. Là.